Cet épisode vous est proposé avec la somptueuse participation de Jean-Christophe Gay, Ludovic Pio, Fabien L, Alexandre, Olivier Revial, Dame Foxy, Martin Fesneau, Arnaud Subert, Max et JP Demoulin. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. Le Rendez-vous Tech, vous le savez, c'est l'émission qui vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets toutes les deux semaines, de manière à ce que vous n'ayez pas besoin d'aller fouiller dans les dizaines de blogs différents qui vous publient des dizaines de news différentes à la minute. On fait tout ça pour vous et on vous résume tout ça d'une manière simple à comprendre et en plus, a priori, sympathique à écouter. Enfin, c'est le but en tout cas. On verra si on y arrive. Moi, je pense qu'on va y arriver sans trop de problèmes puisque j'ai avec moi deux habitués du Rendez-vous Tech qui sont eux aussi podcasteurs tech de mérite et de renom. J'ai nommé Benoît et Mike de Nipcast. Comment allez-vous, messieurs ?
Oui, très très bien, très très heureux d'être avec toi comme d'habitude, grand plaisir, on se réjouit de faire l'émission.
Oui, et pour ma part, ben, très content d'être là. Ben, malheureusement, personne ne me voit à la vidéo, mais je porte un t-shirt rouge qui est pour l'équipe de Suisse dont je suis grand fan. Donc, sachant que tu es de Paris, ben, je me dis bientôt on va être ennemis gentils d'ici à vendredi.
Ennemis jurés, tu veux dire. vous savez, c'est amusant. Bon, je raconte toujours un petit peu ma vie. Si vous êtes nouveau dans l'émission, j'essaye généralement de regarder le compteur et de commencer les vrais sujets de l'émission au maximum au bout de 3 minutes après le lancement de l'enregistrement, parce qu'il faut quand même rentrer dans le vif du sujet vite. Mais ça me laisse donc généralement 40 secondes pour raconter ma vie, ce que je vais faire tout de suite. Je suis tellement peu l'actualité et ce que font les vrais gens dans la vraie vie que je suis arrivé au boulot ce matin et j'ai un collègue, un très bon ami au travail, qui commence à me parler foot. Et en plus, j'aime pas spécialement de foot, hein, donc ça n'aide pas. Je ne comprenais rien à ce qu'il me racontait. Mais donc, et il me disait donc il y a machin Portugal, Ronaldo, tout ça. Ouais, je dis Ronaldo, je connais. Non, mais c'est l'autre, c'est pas lui, c'est le. Ah bon, ok, d'accord. Et il m'a appris donc que la France et la Suisse sont donc, si j'ai bien compris, dans le même groupe, et il y a un match en vendredi. Donc donc c'est ça. Donc nous allons nous affronter. Je te regarderai sur Twitter, Side, et je t'enverrai des pics, même si je regarderai pas le match. Hein, ça sera.
Et t'as raison. Ça serait très. C'est très bien. Non, mais ça va faire. C'est toujours des bonnes petites guéguerres comme ça qui sont marrantes à faire. Mais c'est sportif. On n'est pas comme les joueurs sur le terrain. Nous, on s'apprécie.
C'est ça. Exactement. Bon, je suis sûr que les joueurs sur le terrain s'apprécient aussi. C'est les fans dans les. Enfin, certains fans. Dans les gradins qui sont un petit peu différents. Mais vous savez quoi ? Les autres guerres plutôt sympathiques qu'on apprécie, c'est les guerres entre Google, Apple, Microsoft, Amazon, etc. Et on va vous parler de deux de ces acteurs qui font plein de choses plutôt intéressantes dans les trois infos à retenir aujourd'hui, à savoir Google, d'un côté, qui part à la conquête de l'espace, mais quasiment littéralement, enfin, je ne sais pas si c'est quasiment littéralement, presque littéralement ou carrément littéralement. Ouais. On va vous parler aussi d'Amazon, qui est en train d'étendre ses tentacules un petit peu partout dans tous les domaines de l'activité tech. Vous allez voir qu'il y a des choses intéressantes, peut-être même inquiétantes par certains côtés. Et on va aussi vous faire un petit résumé rapide de ce qui s'est passé à l'E3. Vous savez que l'E3, c'est ce salon hyper important du monde du gaming qui a aussi une certaine importance, bien sûr, pour la tech, puisque les deux univers sont étroitement liés. Donc, on vous en parlera un petit peu aussi en troisième sujet de nos trois infos à retenir. Mais on va commencer avec un sujet, ou plutôt une société qui est chère au cœur de Benoît, et je n'en doute pas, de nous tous, c'est-à-dire Google, qui fait plein de choses super intéressantes. Alors, on a une petite collection de news. Il n'y a pas vraiment une énorme news pour pour réunir tout ça sur laquelle on va se concentrer. Mais par contre, il y a plusieurs news vraiment intéressantes qui nous emmènent de plus en plus loin dans l'espace. Et je plaisante même pas. On va commencer avec le Project Loon. Est-ce que vous connaissez ce Project Loon, Benoît et Mac? J'imagine que vous vous en souvenez.
Ah, oui. C'est clair. Oui, oui, ça a fait beaucoup de bruit quand ils étaient même en phase de test uniquement.
Oui, c'est ce qu'on appelle un peu, on utilise souvent ce terme anglophone qui appelle le moonshot, le tir sur la lune que Google fait souvent, où ils essayent des trucs un peu fous, ça va comme les self-driving cars, enfin les voitures qui sont supposées conduire sans personne.
Les voitures autonomes.
Ouais. Ouais, les voitures autonomes, et je pense que Project Loon en fait partie de ces coups sur la lune comme ça.
C'est ça. Alors en fait, c'est un projet, l'un des projets qui a pour but, pour ambition pour Google de donner des connexions Internet à plus de gens dans le monde. Et c'est ce projet donc qui utilise des ballons qui vont rester dans un certain niveau de l'atmosphère et qui vont permettre d'envoyer des signaux Internet vers le sol et entre eux de manière à créer une extension du réseau Internet dans des zones où il n'y a pas forcément accès. Alors, il avait été présenté il y a un an, vous en souvenez peut-être. Il avait eu pas mal de succès médiatique. Ils ont fait une petite mise à jour, ça fait un an exactement, comme on le disait. Ils ont fait une petite mise à jour sur le projet pour annoncer qu'ils avaient réussi d'une part à intégrer des antennes et des connexions LTE, c'est-à-dire des connexions 4G, qui permettaient d'avoir une vitesse de réception de 22 mégabits seconde vers les grosses stations au sol et de 5 mégabits seconde vers les téléphones. Et on se souvient que le projet original utilisait un Wi-Fi qui était bien sûr un petit peu, qui avait une moins grande portée et qui donc avait des vitesses bien inférieures à celle-ci, parce que là on arrive à des vitesses vraiment très honorables. Le 22 mégabits seconde vers les stations, donc on peut imaginer que ça serait pour des habitations ou des choses comme ça, c'est déjà, c'est carrément très très bien, c'est ce qui est considéré comme le très haut débit dans un certain nombre de régions, même de la France, hein, c'est quelque chose qui est très honorable. Et les 5 mégabits secondes au téléphone, même ça, c'est vraiment pas mal du tout, quoi. C'est pas tout à fait le haut débit, mais enfin, je pense qu'on peut parler de haut débit. C'est pas du très haut débit, mais du haut débit quand même, non? T'as pas l'air convaincu, Benoît.
Est-ce qu'on a vu, parce qu'on s'est tous fait brûler par les jusqu'à 20 mégas. Ouais, jusqu'à 20 mégas. Et toi, t'es là et t'as 3 mégas. Et toi. Donc, est-ce que c'est toi, par beau temps, avec le ballon sur ta tête, au millimètre, etc., ou toi? C'est la seule point d'interrogation que je mettrais.
Disons que je suis certain que les conditions météo et les conditions atmosphériques jouent sur la vitesse. Par contre, là, ils disent que c'est les vitesses qu'ils ont réussi à atteindre. Donc, je pense que c'est pas les vitesses maximum théoriques qu'il faut diviser ensuite par 10 pour atteindre pour les débits réalistes. Mais tu sais quoi? Même si on divisait ces vitesses par 10, on atteindrait pour les stations 2,2 mégabits par seconde, ce qui est, bon, on parle de zones qui sont complètement reculées et inaccessibles par les moyens de communication normaux. Donc, 2 mégabits par seconde, on est bien au-delà de ce qui permet de ne faire que du mail, par exemple, ou du Facebook très limité ou ce genre de choses. Là, on peut effectivement surfer normalement, faire plein de choses avec ces vitesses-là. Je suis sûr que parmi les auditeurs qui nous écoutent, il doit y en avoir encore un ou deux qui sont malchanceux dans des coins un petit peu reculés, qui n'ont pas encore été très bien connectés ou qui ont un ADSL un peu limité, qui sont à peu près à ce type de débit. D'ailleurs, si c'est le cas, venez nous le dire dans les commentaires de l'émission, ça serait intéressant de savoir.
Il leur faut 4 encore heures du Edge. Pour download le dernier rendez-vous texte et ils préparent le soir d'avant religieusement pour que ça soit après le matin.
C'est ça me rappelle des souvenirs d'il y a quelques années sur Internet.
Moi, une chose que j'ai pas compris, j'ai vu ce ballon qui est supposé diffuser de l'internet, si on veut bien, à haut débit. Mais ce que j'ai pas compris, c'est comment est-ce qu'on fait pour connecter les ballons entre eux? Parce que je me dis, on lance 500 ballons et puis on attend qu'ils retombent par terre ou ils restent toujours en l'air, ils tombent jamais. Parce que j'ai vu, je crois que c'était le 3 juin, là, je regardais dans les news, il y a un ballon Google Loom qui est tombé à Washington, je crois, et puis qui est tombé sur vers des habitations. Il n'a pas fait de mort, mais il a juste coupé l'électricité pendant quelques temps. Mais je me demande comment ils restent en l'air, ces ballons-là.
Alors en fait, c'est intéressant. L'article justement de Google sur le sujet explique beaucoup de choses. Et notamment le fait... Alors, ils ne restent pas en l'air indéfiniment. Hein. Ils ont réussi à multiplier le temps de vol par 10 depuis un an. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils restent presque... bon, allez, 2 mois et demi en moyenne. Enfin, il n'est pas rare de les voir rester en l'air pendant 2 mois et demi, ce qui est quand même important. Et ils le font en utilisant les prévisions météo, bien sûr, et puis les estimations par rapport aux données qu'ils ont. Vous savez que Google est l'un des spécialistes de l'analyse de données et d'archives de données. Donc, ils réussissent à éviter comme ça les zones qui seraient dangereuses pour les ballons en les dirigeant, en fait, en descendant et en montant et en utilisant différents courants d'air chaud ou froid pour aller dans une ou l'autre des directions, etc., etc., ce genre de choses. Bon, j'imagine qu'une fois de temps en temps, il risque d'y en avoir un qui se casse la gueule, mais a priori, c'est quand même assez contrôlé et c'est bien contrôlé, leur histoire. Mm-hmm. Donc, bon, bref, voilà. Pardon
Non, parce que je lisais une chose sur les, ils appellent ça les UA quelque chose, les Unidentified Objects aux États-Unis, parce qu'ils sont en train de vouloir un peu regarder comment ils peuvent faire avec les drones. Et je me demandais si les ballons comme ça, c'était associé et c'était sous la même législation que les drones ou c'était quelque chose de totalement séparé. Je me posais la question.
Je pense que c'est différent, hein. Ils sont beaucoup plus hauts. Que les drones, enfin en théorie, je pense que c'est différent, mais bon, ils sont encore, je pense, malgré tout, dans une phase d'expérimentation. Donc,
on parle de plus de 10 km, hein, entre 10 et 60 km. Donc, même les avants de ligne, ils sont quoi ils doivent arriver à 8, 10, quelque chose comme ça. Donc, ils sont au-dessus de l'espace aérien civil. Donc, voilà, ils ont dû régler 2-3 trucs avec les militaires, probablement, mais à part ça, tranquille.
Bon, justement, à propos d'espace aérien, on peut quand même parler de la deuxième chose qui rapproche Google des étoiles. C'est leur rachat pour $500 millions, ce qui est une somme dérisoire aujourd'hui dans le monde des rachats d'entreprises, de Skybox Imaging, qui est une société d'imagerie satellite qui gère... Alors, j'ai pas bien compris, mais est-ce qu'ils construisent eux-mêmes des satellites ou est-ce qu'ils utilisent des satellites d'autres sociétés, je crois qu'ils construisent eux-mêmes leurs satellites, n'est-ce pas? Qui sont tout petits, hein, mais tout de même.
Ouais, ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'est des micro-satellites, donc ça m'a pas l'air des énormes choses. C'est vrai que ce qui m'a étonné, je me suis dit, waouh, ce qui est bien, c'est de voir des gens continuer à innover dans ce domaine. Je me disais que Google était déjà un mastodonte et de voir des petites startups comme ça, quand même continuer à innover dans un domaine qui est assez spécifique. Je trouve intéressant parce que j'utilise très peu, en tout cas pour Google Maps, j'utilise très peu Google Earth et j'utilise très peu Google Maps pour voir
La vision satellite.
La vision satellite, parce que je trouve qu'elle m'apporte pas grand-chose. Donc, je suis sûr que si j'avais cette possibilité de voir mieux et puis de voir vraiment les détails, j'utiliserais beaucoup plus cette fonctionnalité.
C'est possible, en tout cas, voir mieux et voir les détails, c'est effectivement ce que fait Skybox. Ils ont, alors comme tu le disais, Mike, des satellites qui sont de taille, ça fait quoi? Ça fait la taille d'une boîte à outils, quoi, quelque chose comme ça, à peu près, peut-être un petit peu plus gros. Et ils ont effectivement une imagerie satellite qui est très, très, très détaillée. C'est une capture vidéo d'images de la Terre en haute résolution. Alors que beaucoup de leurs compétiteurs sont encore en moyenne, voire ils essayent la haute résolution. Donc là, ils réussissent à faire ça en vidéo chez Skybox. C'est assez en haute résolution en vidéo. Donc c'est assez impressionnant. On verra pourquoi Google l'utilisera. On se doute bien que c'est à la fois pour Maps, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, mais à la fois pour Maps, et aussi peut-être pour les satellites. Est-ce que Google va commencer à utiliser des satellites, que ça soit pour les connexions Internet ou pour d'autres choses? Franchement, je me dis, quand on commence à mettre ensemble les Google Glass, les voitures qui se conduisent toutes seules, les satellites, les Project Loon, la fibre Google partout, ils sont en train de construire le futur, ces gens, quoi.
Peut-être juste 2-3 chiffres, hein, parce que moi j'aime bien les chiffres.
Alors, vas-y.
Pour donner une idée, avant on avait les ballons qui étaient entre 10 et 50 km, on va dire. Là on est à 300 km avec ces satellites. Mais ce que je trouve intéressant, c'est le nombre de satellites qu'il faut pour couvrir la Terre finalement. Et moi, je pensais, c'est des petits satellites, j'avais en tête, ils vont en envoyer des centaines, des milliers, enfin voilà. Mais en fait, ils en ont une vingtaine. De ce que je vois, il y en a 24, en gros. Et ça suffit pour faire, pour avoir une image de la Terre 3 fois, par jour. Alors évidemment, ça dépend des conditions. Puis un autre truc intéressant aussi, c'est que tu disais, Patrick, que les autres ne faisaient pas d'images de haute résolution. De ce que j'ai compris, mais il faudrait creuser un petit peu plus, c'est aussi lié au fait que c'était illégal et qu'il y a eu un changement aux États-Unis dans la loi qui permet maintenant justement aux entités non militaires d'avoir des résolutions beaucoup plus élevées qu'est-ce que ce qu'elles avaient jusqu'à maintenant.
Intéressant, effectivement. Oui.
Moi, ça me fait des fois penser à ces vieux films de science-fiction, comme ça, on a toujours un peu la compagnie un peu méchante qui a toutes nos données, ouais. Et puis qui va, bien sûr, ils disent we don't do no evil, bien sûr, et puis finalement, ils finissent par nous rendre esclaves et nous faire tout ce qu'ils veulent. Des fois, Google, vu la direction dans laquelle ils vont, des fois, je m'imagine à ça, mais à vrai dire, ben, je leur fais toujours confiance, je sais pas pourquoi.
C'est vrai, pour une raison qu'on ne comprend pas.
Oui.
À vrai dire, le pire, c'est que généralement, enfin, là, Google, ça sera même pas eux qui vont finir par nous esclavagiser. ça sera les robots qui vont construire, les robots autonomes qui vont envahir la Terre, qui vont devenir une sorte de Skynet. C'est vraiment l'image qu'on a généralement, hein, Skynet de Terminator, que Google est en train de faire Skynet et bon. On n'y est pas encore, mais c'est clairement ce qui s'en approche le plus dans le monde d'aujourd'hui. D'ailleurs, évidemment, pour toute corporation maléfique... excusez-moi, je suis...
Ils arrivent à t'empoisonner depuis leur satellite.
Tu vois, Patrick, dis du bien, sinon ça va mal se passer.
Donc, pour toute corporation bénéfique et angélique qui veut améliorer le futur de l'humanité, il faut aussi des moyens de coloniser l'espace pour y utiliser de manière totalement biologiquement éthique l'espace et les ressources qu'il y a dans l'espace. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, Google ? C'est prendre une petite participation chez Virgin Galactic. Vous savez, Virgin Galactic, c'est cette société de Richard Branson, hein, qu'on connaît bien, qui a pour but de faire des véritables voyages, des transports dans l'espace. Ils ont des transports commerciaux qui sont en prévision, en construction, en recherche, on va dire, dans l'espace. Donc, est-ce que ça sera pour lancer des satellites ? Est-ce que ça sera... On ne sait pas. Mais ils prennent une petite participation d'environ 1,5% chez Virgin Galactic. Donc voilà, ballon stratosphérique, satellites spatiaux et vaisseaux spatiaux finalement.
Moi j'ai une petite idée pourquoi. C'est juste parce que Sergey Brin, donc un des patrons fondateurs de Google, aime bien faire des sauts en parachute. Et donc il aime bien être dans les airs, les choses comme ça. Donc oui, on avait vu, je crois, avec Google Glass, il avait fait un petit saut, il avait fait des photos. Donc vu qu'il aime bien et puis qu'il a quelques milliards à dépenser, je pense qu'il vise la Lune.
Moi, j'ai une autre explication. Alors, quand on est à 1% comme ça entre milliardaires, ça, c'est une partie de poker. Le gars, il a dit, allez, 1% de ma boîte, et il a perdu. C'est comme ça que je vois.
C'est possible. Bon, donc voilà, Google à la conquête de l'espace, c'est en train d'arriver. Plus dans le domaine du quotidien et de la question de la confiance, il y a une rumeur qui nous dit que oh, excusez-moi, je suis ça va pas super bien, je suis désolé. Donc une rumeur qui nous dit que Google serait en train de développer un outil de santé de la même manière qu'Apple, qui a annoncé son service Health il y a 2 semaines environ. Google serait en train de préparer Google Fit. On sait que Google avait créé Google Data Health ou quelque chose comme ça, qui était là prévu pour les données médicales, vraiment pour être votre dossier médical unifié. Évidemment, les questions de confiance entrent en compte là beaucoup plus. Là, Google Fit, ça serait plus pour, un petit peu comme Apple, réunir toutes vos informations sur les trackers de fitness que vous pouvez avoir. Mike, je sais que tu es assez adepte de ce genre de choses. Est-ce que ça aurait un intérêt vraiment ? Là, on parle de Google Fit. Oui. On pourrait parler de Apple Health aussi, d'avoir une app qui réunit tout ça?
Oui, oui, vraiment un grand intérêt, parce que l'univers, il est vraiment maintenant de plus en plus diffus, avec il y a Fitbit par là, il y a les plus connus Jawbone par là, il y aura après Runkeeper pour ceux qui courent, il y a Strava, et il y a plein d'univers séparés qui des fois utilisent pas les mêmes technologies, alors pour traquer son pouls, traquer comme on boit, traquer ce qu'on mange, et tous ces univers-là, ils ont vraiment besoin d'un endroit où on peut mettre toute cette information. Non seulement pour nous, mais aussi pour toutes les autres apps qui pourraient se mettre à côté. Et ça, c'est une problématique que moi j'ai, parce que vu que j'utilise pas mal d'apps, j'en utilise 3-4, je sais jamais où tout mettre. Jusqu'à maintenant, le seul qui fait ça, selon moi, le mieux, c'est pas Fitbit, c'est l'autre Jawbone, que je trouve bien parce que je peux mettre un peu toutes ces informations à l'intérieur. Je trouve que là, c'est une réelle demande et je me réjouis de voir qui va mieux l'implémenter. Alors, je pense que peut-être au niveau design, ça va être Apple, comme on les connaît, mais peut-être au niveau technologie et ouverture, on sait que Google a plus tendance à être ouvert, donc ça sera un bon combat. En tout cas, c'est bien qu'ils le fassent les deux. Je me souviens de Google Health à l'époque, j'avais essayé pendant 2 minutes et puis je m'étais dit mais c'est beaucoup trop compliqué pour moi et puis j'avais arrêté.
Oui, et puis le but était un peu différent de toute façon. En tout cas on espère que ça sera intéressant pour les deux plateformes, mais ce qui est clair c'est qu'on aura une version pour Apple et une version pour Android, donc personne ne sera laissé pour compte. Windows Phone, pardon, vous voyez je suis encore un peu malade. Donc, il y a encore 2 petites news à passer chez Google. Le fait que ce droit à l'oubli dont on a parlé à plusieurs reprises, donc je ne vais pas revenir dessus, vous savez qu'on a la possibilité maintenant de faire disparaître des liens vers certains sites en invoquant le droit à l'oubli avec Google, il serait possible qu'il y ait une indication dans les résultats de recherche que la page contient un lien qui aurait été affiché sans cette notion de droit à l'oubli. Et il serait possible, par exemple, on a entendu parler d'une société tierce qui serait très subtilement financée par Google qui ferait ce genre de choses. Alors, on ne sait pas exactement comment ça fonctionnerait. Est-ce que ça serait directement intégré sur les résultats de recherche de Google, ou par exemple, est-ce que il pourrait y avoir un des liens qui serait retourné, qui ne serait pas le lien lui-même qu'on a demandé, ou les mots qu'on a demandé dans la recherche, mais qui indiquerait, par exemple, ces mots-là seraient présents sur une autre page qui, elle, n'a pas subi de demande de suppression et qui listerait, en fait, les pages qui ont été supprimées. Donc, ça devient vicieux, hein, mais bon, on verra comment ça se passe. Ça, oui, pardon, Benoît.
Je pense que, je ne sais pas quel est ton avis là-dessus, mais à mon avis, dans un an, quand on fera le bilan de la première année, comme le projet Loon, il y aura quelques dizaines de pages qui ont été supprimées au maximum, à mon avis. Donc, voilà.
Il est possible que, alors ils ont eu énormément de demandes effectivement, mais ensuite ils étudient chaque demande individuellement. Je pense que
pour avoir un peu travaillé avec Google, notamment sur les Google Ads, j'ai vu que quand il y a des ads, par exemple on a une marque, on peut bloquer l'utilisation de sa marque par Google. Parce que si on a les droits à cette marque, les gens n'ont pas le droit d'utiliser Google Ads avec le nom de notre marque. Ça, on peut faire. Mais pour avoir testé un peu ça, on voit que la réactivité de Google pour enlever les Google Ads dure 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Donc, la réactivité n'est pas énorme. Moi, ça, c'est pour un peu dire à quel point ils vont pas si vite. Moi, ce qui m'intéresse peut-être, c'est de voir par rapport au droit à l'oubli. J'entendais les gars de This Week in Tech parler et puis j'étais étonné parce que eux ils disaient ouais c'est un scandale, on devrait pas avoir le droit à l'oubli. Et puis est-ce mon côté européen ou suisse, mais moi je crois qu'on a le droit à avoir le droit à l'oubli. On a le droit à pas avoir tout le temps tout sur internet et toute notre vie. Et je me posais la question, toi qu'est-ce que t'en penses, Patrick?
Ben écoute, je t'invite à écouter le rendez-vous tech précédent ou celui d'encore avant sur lequel j'ai détaillé mon avis précisément. Mais pour te dire très très succinctement, pour moi, en dehors de toutes les questions de philosophie qui sont légitimes à poser, le gros problème que me pose cette décision de justice, c'est que ça demande à Google de supprimer un lien à un contenu qui lui-même ne pourrait pas être supprimé légalement. Donc, ce que je voudrais, c'est qu'on autorise le fait de supprimer le contenu source, mais par contre, le fait de dire à quelqu'un qui indexe le contenu, bon, ce contenu existe quelque part, mais vous, il faut que vous prétendiez qu'il n'existe pas, c'est une pente glissante sur laquelle je voudrais qu'on ne s'engage pas. Mais bon. Je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en rediscuter à de très nombreuses reprises. En gros, je suis pas contre le droit à l'oubli, effectivement. Je suis contre la manière dont elle a été implémentée ici par l'Union européenne. Elle a commencé à être implémentée parce que il y a toute une question de juridiction entre l'Union européenne et le tribunal espagnol qui avait demandé son avis, et puis enfin bref, il y a toute une série de choses. On pourra en rediscuter à l'occasion. Dernière chose chez Google, une extension pour son navigateur Chrome, pour son service Gmail. Alors là, vous vous dites, mais c'est tellement spécifique, vous avez commencé à vous endormir, mais je vais vous réveiller en vous disant qu'il s'agit d'une extension OpenPGP. Alors de quoi s'agit-il? C'est un moyen de, alors que je dise pas de bêtises, chiffrer, voilà.
Joli.
Ben merci. De chiffrer vos emails sur Gmail de manière à ce que même Google ne puisse pas les lire. Alors, on savait que l'une des choses qu'on disait sur Google, c'est qu'il voulait absolument lire vos mails puisque c'est comme ça qu'il pouvait vous proposer des pubs qui vous convenaient et donc faire de l'argent. C'est comme ça qu'ils payent pour ce service qu'ils vous offrent, Gmail, et pour tous leurs services d'ailleurs, c'est leur business model en général. Alors là, ils font en fait un petit peu un bon pas en avant, en proposant à terme, parce que là c'est encore en test, en bêta, un outil qui vous permettra de chiffrer vraiment toutes vos communications. Évidemment, le truc c'est que c'est une extension pour Chrome, donc seuls ceux qui s'intéresseront vraiment à la chose iront l'installer. Il n'est pas impossible que beaucoup de gens le fassent, mais ça sera certainement pas tout le monde. J'imagine qu'avec le business model de Google, on peut pas s'attendre à mieux, et c'est déjà pas mal. Donc,
bon, le problème qu'il y a, c'est la compréhension des gens aussi, parce que tout le monde n'a pas de Gmail. Alors après, il faut expliquer clés publiques, clés privées. On n'arrive même pas à le prononcer, voilà. franchement, oui, moi je suis content parce que j'utilise. Hein, j'ai une extension qui fait ça, mais qui est pas celle de Google, donc ça sera plus facile. Si c'est celle, pardon?
C'est Mailvelope ou une autre?
Non, c'est encore une autre. D'accord. Qui s'appelle je sais même plus, tiens, MyCrypt, un truc comme ça. My Mail Crypt for Gmail.
Bon. D'accord.
Et OpenPGP, justement. Mais voilà, des gens qui utilisent ça en face, je reçois un mail par semaine. Allez, des bonnes semaines.
Ouais, bah peut-être que quand Google le fera officiellement, on en aura un petit peu plus. Mais...
Et moi, je trouve que c'est super intéressant parce qu'on savait que Google avait eu des petites tensions avec la NSA qui a commencé à un peu regarder les différentes données qui se passaient entre leurs serveurs. Ils l'ont pas aimé. Ils ont dit qu'ils allaient crypter, en tout cas, leurs données déjà internes. Et je trouve que c'est un pas dans la bonne direction. Le jour où on commencera à tout crypter, c'est le jour où les logiciels qu'on utilise le feront automatiquement. Et le problème avec OpenPGP...
Excuse-moi, je comprends pas ce que tu veux dire, Mike. Ah, tu veux dire chiffrer, oui, d'accord.
Oui.
Ah. Et c'est parce que tu te fais toujours engueuler, c'est bien vu. Toi,
exactement,
on voit que tu te
fais
engueuler à cette fois. Hein.
Okay, là, au moins, je commence à retenir. Oui.
Chiffrer. Moi, je trouve intéressant de le rendre transparent pour l'utilisateur. Alors, c'est vrai que, voilà, il doit aussi avoir la clé publique, donc faire la demande. Pour l'instant, c'est pas encore transparent. Il faut downloader l'extension, mais c'est un pas dans la bonne direction. Je pense que des gens comme Apple devraient s'en inspirer et le mettre automatiquement sur leur téléphone pour qu'on puisse le faire. Mais bien sûr, vu que c'est des boîtes américaines et la NSA rôde, je pense qu'ils freinent un peu l'implémentation.
Oh, moi, je pense pas que ça soit ça le problème. Le problème, c'est qu'il est très difficile d'avoir un système qui fonctionne de manière transparente, comme tu le disais, pour tous les utilisateurs. D'autant plus que à partir du moment où, même si vous l'implémentez en interne, vous envoyez un message à quelqu'un qui n'utilise pas un système comme celui-là, ça ne sert à rien. Donc, bon.
Ouais,
bref,
d'ailleurs, je suis sur pgp.mit.edu et je cherche notre Patrick pour trouver ta clé publique et je trouve rien.
Non, bah non, j'avoue, je n'utilise pas PGP. Il faudrait. Mais enfin, le truc, c'est que j'ai... Oui, bon, bref. Passons, continuons les sujets. Amazon, donc, Amazon, on va aller un petit peu plus vite. Amazon qui nous sort une sorte de free service, mais pas vraiment super gros, un service de souscription, d'abonnement plutôt, à la musique, gratuit. D'Amazon, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà un système qui permettait aux gens d'avoir des vidéos gratuitement, enfin gratuitement, en quelque sorte. En fait, c'est gratuit si vous utilisez Amazon Prime, et c'est ça qui est la clé vraiment très importante de ce service. Et ah, décidément, j'espère que je vais finir l'émission quand même. C'est ça qui est la clé vraiment de service, parce que beaucoup de gens ont noté avec justesse que l'offre était vraiment limitée. Il y a beaucoup de gens qui manquent, enfin de gens, sociétés qui n'ont pas signé d'accord avec eux. Donc on n'a pas Universal Music, par exemple. C'est quand même beaucoup de gros artistes. Il y a à peu près, je sais plus, 1 million de titres, je crois, ce qui est pas mal mais pas énorme. Et le truc, c'est que c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir dans le cadre de l'abonnement Amazon Prime, qui vous permet d'avoir les livraisons gratuites en un jour pour beaucoup de d'achats que vous faites. Alors on inclut à Amazon Prime les livraisons, certains services pour les Kindle, les vidéos qui sont pas qui a pas le meilleur catalogue de la terre, c'est pas Netflix, mais qui est quand même quelque chose, plus un service de musique. Au final, pour le prix d'Amazon Prime, qui est 69 ou 79 euros par an, et qui vous permet en plus de partager l'abonnement Amazon Prime avec plusieurs membres de votre famille, au moins pour les livraisons, ça commence à devenir quelque chose de vraiment intéressant, non?
Oui.
C'est trop de trucs pas super, et donc au final ça fait un gros truc pas super.
Mike a une opinion très claire là-dessus, donc il parle bien d'Amazon, je vais le laisser faire.
Ouais, moi j'aime bien Amazon, normalement je suis un grand fan, je suis un peu un fanboy d'Amazon. Normalement Amazon, leur philosophie c'est de faire tout pour l'utilisateur, pour leur client. Et finalement ça pour moi c'est pas faire tout pour leur client, parce que moi je suis un client Amazon, mais j'habite en Suisse, je peux donc pas avoir Amazon Prime. Enfin, je le crois, peut-être que je me trompe, mais je pense pas. Et je trouve que faire un service de streaming où on dit oui, tu as 1 million de titres, mais il faut s'abonner à quelque chose qui coûte 70 euros, voilà, environ, ou 70 dollars, je trouve que c'est une arnaque. La preuve, c'est que les utilisateurs le pensent, parce que quand on va sur l'app que je me suis empressé de downloader en me disant trop cool, parce que moi je suis un grand fan de Spotify, que j'utilise maintenant depuis plus de 2 ans, et vraiment je suis content. Je me suis dit, ah voilà, une alternative, je l'ai testé. Oh, je ne peux même pas voir un seul titre. Pourquoi? Je dois aller sur le web, soit acheter des titres, soit faire partie d'Amazon Prime. Alors oui, pour Prime, ça commence à faire du sens d'avoir des films, du streaming, mais on ne peut pas dire que ça concurrence Spotify. Pour moi, en rien du tout, ça concurrence Spotify. Et je trouve dommage qu'ils aient cette direction.
Je crois que le but n'est pas de faire concurrence à Spotify, en fait. C'est en ça que c'est difficile, enfin que beaucoup de gens ne comprennent pas le service. C'est juste un truc en plus chez Amazon Prime. Et pour 69 euros par an, c'est quand même pas beaucoup, 69 ou 79. On a en plus un petit peu de musique. Et accessoirement, ce que me disait Tom Merritt sur Daily Tech News Show il y a quelques jours, c'est que quand vous voulez écouter un morceau et qu'il n'est pas disponible sur leur service de streaming, c'est ce qu'ils font aussi sur leur service de vidéo, ils vous proposent de l'acheter s'il est disponible en achat. Donc, bon, visiblement, ça ne plaît pas à Mike. Ben, est-ce que toi, ça te séduit un peu plus?
Non, moi, je ne touche pas au service d'Amazon que je trouve compliqué. Enfin, j'ai eu un Kindle Fire 1, le tout premier, là, et ça m'a vacciné contre tous les services d'Amazon, même si j'achète hein, par ailleurs. Donc, je les vois pas dans ce genre de truc. Alors il y a une annonce qui arrive la semaine prochaine hein, aussi, probablement au niveau hardware. Donc peut-être ça mettra un peu d'unification là-dedans. Mais moi, tant qu'ils auront pas du hardware d'une façon ou d'une autre, ce genre d'annonce m'intéressera peu.
Je veux dire de téléphone, parce qu'ils ont déjà des tablettes. Donc.
Oui, voilà, pardon, oui, c'est juste, absolument. Oui.
Mais peut-être, nous, on est le faux public, entre guillemets, parce qu'en Suisse, moi, je suis un grand fan, j'achète sur Amazon.fr, Amazon.de en Allemagne, mais en Suisse, on n'a pas d'Amazon.ch. Oui. Donc, on n'a pas la possibilité d'avoir tous ces services-là. Donc, peut-être, on est un peu le faux public pour en parler, même si j'adore Amazon.
Bon, bah écoutez, si vous êtes séduit par ce type de service, le truc c'est que si vous avez la possibilité d'utiliser Amazon Prime, c'est tellement pratique, comme me le disait il y a pas si longtemps Cédric Bonnet et Corben, c'est tellement pratique que c'est difficile de ne pas vouloir l'utiliser. Et je suis assez d'accord, donc tout ça vient en plus. Mais bon, si vous êtes utilisateur de ces services, prévenez-nous.
Est-ce qu'on va vraiment est-ce que tu vas survivre jusqu'à la fin?
Écoute, moi je suis un warrior, je suis comme Rambo, je n'arrête pas le rendez-vous tech, c'est même pas envisageable, tu vois. Je terminerai comme pour reprendre une image stallonienne, comme Rocky en haut des marches ou comme Rocky à la fin de son combat, je crierai non pas Adrienne mais rendez-vous tech avec le poing levé vers le haut.
Bon, ça dépend si c'est Rocky au début du film, quand il n'est pas en forme, ou Rocky juste avant le combat, hein, parce que juste avant le combat, il était bien en haut des
escaliers. Oui, c'est vrai. Bon, autre chose chez Amazon qui, là, vous séduira peut-être si un jour vous avez Amazon.ch, c'est le service, enfin, une rumeur qui parlerait d'un service de marché de service, en fait. C'est-à-dire que vous pourriez bientôt aller sur Amazon pour rechercher des gens pour faire du babysitting, pour faire du ménage, pour faire, pour rendre ces petits services dans la ville qui peuvent être hyper pratiques. Et il y a plein de petites apps et de petites sociétés qui ont essayé de faire des services qui permettraient de chercher des gens pour faire ce type de petits travaux qui n'ont pas vraiment décollé ou en tout cas pas en Europe. Peut-être qu'Amazon pourrait, grâce à son poids et son omniprésence, sauf en Suisse, permettre de lancer un marché comme ça. Est-ce que vous pourriez être séduit par quelque chose comme ça? Vous pourriez l'utiliser pour trouver des gens pour du babysitting ou du ménage ou couper les haies dans l'immense villa de banquiers suisses que vous avez tous les deux.
Vu que tu as une plus grosse villa, Ben, tu commences?
Ouais, bah alors absolument. On en parlait justement avec Mike avant l'émission. C'est vrai qu'il y a il y a pas mal de services comme ça qui ont été lancés aux États-Unis avec grand succès et c'est difficile de trouver un succès comparable en Europe. Alors est-ce que c'est la mentalité? Est-ce que c'est la fragmentation? C'est un truc local, donc c'est pas les marchés. On en revient au problème de la confiance, qu'un des problèmes, sur Internet qui reste encore à résoudre. Je pense que je ferais plus confiance à Amazon qu'à un site que je trouverais pour l'occasion une fois comme ça. Donc, clairement, ouais. Si je devais aller, ça serait simple. Ils ont ma carte de crédit, j'ai pas besoin de réfléchir trop. Je pense qu'ils seraient capables de bien choisir les personnes dedans. Ouais. Ceux que j'aimerais voir faire ça, c'est Netflix, parce qu'ils sont hyper doués pour les recommandations. Mais bon, je pense qu'on peut encore attendre un peu.
Tu aurais comme sur Netflix, vous avez apprécié le service de repassage de John Baboul. Peut-être que vous aimeriez le service de mécanique de machin.
On en discutait avec Ben aussi. On disait qu'on en avait parlé au premier NipTech. Donc NipTech,
Mike,
en octobre 2009.
Je te laisse parler pendant 2 minutes. Je vais aller me chercher une pastille pour la gorge. Là, sinon, je vais décéder. Génial, il faut que je tienne. Bon, vas-y, tu as l'antenne.
On hack le rendez-vous tech. C'est à nous.
Non, mais pour revenir à Amazon, ceux qui m'ont déjà entendu, ils savent que je suis un méga fan. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on avait dit, déjà en 2009, quand on avait fait le premier NipTech, on parlait déjà de ce genre de service, RedBeacon, qui devait faire du local. J'avais trouvé une information intéressante qui parlait d'un on-demand home service startup. Alors je vais le dire en anglais, mais c'est quoi? C'est un peu la même chose. C'est un demande de service pour la maison. Et ils ont réussi à lever 30 millions de dollars la semaine dernière. Ça s'appelle Handybook, Handybook. Donc vraiment, c'est un espace qui commence encore à se développer. On n'a pas réussi à trouver la startup qui réussirait à vraiment tout bouffer. Et je pense que Amazon, ils ont tout pour le faire. Comme t'as dit, Ben, ils ont le paiement. On leur fait confiance, non seulement ça, mais ils ont déjà ma carte de crédit.
Vous avez été sage?
Oui, on a été sage.
Très bien.
Finissez.
Non, ce que je disais, c'est que moi, je pense que ça va cartonner et ça, c'est vraiment un super service parce que, un, ils ont ta carte de crédit, Donc, ils ont déjà ton moyen de paiement. Deux, ils ont ton adresse email et ils ont le pouvoir de te faire aussi des recommandations de ça. Trois, oui. Ils savent comment utiliser les réseaux parce qu'ils ont déjà utilisé les réseaux parce qu'ils ont commencé avec des réseaux de revendeurs aussi Amazon, mais c'est pas vrai. En direct. Ils c'est avaient Amazon Reseller qu'ils ont encore aujourd'hui, mais qu'ils ont tellement écrasé que finalement, c'est eux qui dominent le monde. Et ça, je trouve intéressant parce qu'ils ont tout pour réussir. Et moi, je pense que là, ils ont une vraie valeur ajoutée à nous donner.
D'accord. Bon, bah écoute, peut-être que ça plaira un petit peu plus alors. L'autre chose qu'ils sont en train de commencer, c'est des reviews, des avis sur les restaurants et sur les autres boutiques locales, en fait, sur les boutiques physiques, un petit peu comme Yelp ou TripAdvisor ou ce genre de choses. Possiblement une app avec un lancement pour la fin d'année. Ils font ça par l'app Amazon Local. Donc là encore, on voit que Amazon continue à s'étendre un petit peu partout dans des endroits qu'on n'attendait pas forcément. Un petit service en plus pour ceux qui apprécient les podcasts, vous utilisez peut-être Audible, qui est un service d'Amazon de lecture de livres. En fait, c'est l'achat d'audiobook.
Je peux te dire à combien d'audiobooks je suis, mais ça doit être pas encore tout à fait 100, mais je m'en approche gentiment, quoi.
Ouais, bah voilà. Donc tu apprécieras ce service qui te permet avec l'app Kindle d'avoir à la fois le texte, donc le livre en texte, et le livre en audiobook, et de synchroniser les deux. Donc quand tu veux lire une page, tu peux. Quand tu veux écouter la page suivante, tu peux, de manière très transparente. Ouais. Bon, il faut avoir acheté les deux, hein, qui sont à des prix différents. Oui,
mais ça fait un moment que ça existe, non ? Ça fait un moment que je le vois
dans l'app. Tous les livres.
Ah d'accord. Ouais.
Moi, une chose que je me suis dit avec ça, c'est que vraiment, je différencie mes deux manières de lire. Alors, j'ai un Kindle Paperwhite que j'adore. Hein. Franchement, c'est le meilleur lecteur que j'ai jamais eu. Je suis tellement fan que j'en peux plus. Je peux lire dans le noir, donc je suis tout content. Et l'autre côté, j'ai aussi Audible et j'écoute des audiobooks. Mais je ne fais pas les deux simultanément. J'écoute des choses que je n'ai pas envie de lire. Et je ne sais pas, je me pose la question, est-ce que j'aurais envie de lire un bouquin en audiobook ? Ben des fois non, parce que je différencie les deux types de bouquins, mais je vais essayer une fois pour voir si ça
me plaît. En fait, il y a certaines choses que tu lis et certaines choses que tu écoutes finalement.
Exactement.
Et même si tu peux en avoir deux que tu fais en même temps, entre guillemets, c'est-à-dire le matin en faisant ton jogging, t'écoutes un truc, et puis c'est pas les mêmes choses dans les deux cas. Quoi.
Non.
Ouais. Ah, c'est intéressant, ouais.
Mais c'est peut-être parce que le service n'existait pas que j'ai commencé à agir comme ça.
Possible.
Donc,
voilà. Possible. Bon, en tout cas, si vous êtes fan de podcast, et j'imagine que c'est le cas puisque vous nous écoutez, vous pourriez peut-être penser à Audible, qui est un service très, très intéressant. Bon, et enfin, comme tu en parlais, Benoît, une dernière chose qui montre à quel point Amazon est en train d'étendre son empire un petit peu partout, c'est cette annonce en rumeur encore, mais enfin, dont on entend des rumeurs depuis très longtemps, qui devrait arriver cette semaine, à vrai dire, dans quelques jours. Peut-être qu'au moment où vous écouterez cette émission, elle sera déjà arrivée. C'est l'annonce du téléphone d'Amazon, avec cette sorte d'éléments 3D qui permettrait d'afficher l'image en fonction de l'angle avec lequel vous le regardez. J'en avais déjà parlé, c'est des choses qui sont pas des écrans réticulaires ou des écrans 3D au sens traditionnel, c'est simplement que en fonction de l'angle de vos yeux par rapport à l'écran, va afficher une image différente. Donc, c'est utilisable avec n'importe quel type d'écran. Donc, une image très claire, très nette, sans lunettes, sans quoi que ce soit de ce genre. En tout cas, c'est ce qu'on entend dans les rumeurs. Et avec donc 6 caméras sur l'écran en tout pour traquer vos yeux. Comment est-ce que ça va être utilisé ? On ne sait pas trop. Est-ce que ça pourrait vous intéresser ? Enfin, est-ce que, au-delà même de cette histoire de 3D qui est presque anecdotique, à moins qu'ils annoncent quelque chose d'incroyable avec, le fait qu'Amazon fasse un téléphone, est-ce vraiment utile ? Est-ce vraiment cohérent ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? Ou vous en pensez quoi, vous ?
Ouais, je suis surpris de l'annonce de 3D. Alors, je ne sais pas si c'est la presse qui a repris uniquement ça, parce que Amazon est plutôt une boîte un peu conservatrice quand il s'agit de lancer des produits. On l'a vu hein, avec le Kindle, typiquement, ils attendent de voir ce qui fonctionne, et puis ils font un truc qui est bien, mais qui n'est pas, voilà, ils ne visent pas le truc incroyable, ils visent plutôt pas cher, accessible, tranquille. Donc là, je serais surpris qu'ils cherchent à sortir un téléphone révolutionnaire. Ils devraient laisser ça à d'autres. Et puis après, dans leur stratégie, c'est évident que c'est la grosse pièce manquante. Et je me demande plutôt qu'est-ce qui leur a pris autant de temps plutôt qu'autre chose.
Mais quel intérêt, Ben? Quel intérêt pour une société comme Amazon, qui finalement est un immense supermarché, d'avoir un téléphone, quoi? C'est comme si, je sais pas, Auchan faisait un téléphone, non?
Moi, je pense pas comme
ils vendent
ça.
Des biens digitaux à l'appel, hein, quand même, oui. Aussi.
Et je pense qu'on sous-estime l'impact du Kindle Fire, nous, en Europe. Le Kindle Fire aux États-Unis, je regardais juste un peu les statistiques, mais j'arrive pas vraiment à trouver une vraiment incroyable, mais j'en ai trouvé une de janvier 2012, donc c'est pas si
ça date un peu,
mais il disait Amazon Kindle Fire, c'est 36% du marché des tablettes Android. Le Kindle Fire. Alors, je sais pas si aujourd'hui c'est plus grand ou pas, j'ai pas encore trouvé une statistique, mais je pense qu'on sous-estime l'impact que le Kindle Fire a eu et son utilisation. Et je pense qu'Amazon, ils ont vu qu'avec ça, ils arrivaient à vendre plus. J'ai lu une statistique intéressante que maintenant, que à travers le Kindle Fire, ils ont aussi plus facilement des contacts avec les gens, et les gens, ils ont une espèce de bouton help, ils appuient dessus et ils peuvent directement rentrer en contact avec une personne d'Amazon pour les achats. Donc ils se sont rendus compte
en vidéo, en plus c'est une sorte de visioconférence,
et ils se sont rendus compte comment les gens font les achats dans les magasins. Selon moi, ils le font avec leur mobile, pas leur tablette, et je suis certain qu'ils se sont dit, si on leur met un téléphone Amazon dans la main, on aura la capacité. Imagine, tu vas dans un magasin, justement chez Auchan, tu regardes le prix, tu tapes sur ton petit truc Amazon qui te fait, mais bien sûr, il est moins cher chez nous. Vous pouvez l'acheter, on vous le livre. Vous savez quoi? On vous le livre dans une heure et gratuitement. Et ben voilà. Et pam. Et je suis certain qu'ils ont vu ça et qu'ils vont dans cette direction. Et moi, je pense qu'il faut pas oublier le pouvoir aussi d'Amazon. S'ils veulent vendre quelque chose, ils ont la capacité parce qu'ils ont les internautes qui viennent sur leur site.
Et pendant ce temps, j'ai fait le travail de recherche. Donc, la dernière stat que j'ai trouvée aux États-Unis pour les cadeaux en termes de tablettes qui ont été faites ce dernier Noël qui est passé. Bon, Apple, loin devant, hein, plus de 75%. Oui. Mais Amazon, pratiquement à 10% de tablettes vendues à Noël.
C'est pas mal du tout, hein.
Donc, c'est bien. Alors après, il semblerait que sur l'année, ils sont beaucoup plus bas. Ça marche bien Noël, mais sur le reste de l'année, ils sont plutôt en dessous de 5%. Mais bon, ils arrivent en tout cas à mettre de la pression, ouais.
D'accord.
C'est plus que Microsoft, hein, par exemple.
Très intéressant, très intéressant. Bon, les tablettes chez Microsoft, c'est aussi un peu particulier, mais.
Oui.
Ok, bon, bah, en tout cas, on verra, hein. On aura certainement beaucoup plus d'infos dans la semaine, avec cette conférence d'Amazon qui nous annoncera tout plein de choses intéressantes. Enfin, le troisième sujet sur lequel on va faire un petit moment. Ça va être l'E3, l'Electronic Entertainment Expo, dont on va vous parler donc un petit peu. Je vais sans doute m'y coller parce que je sais que mes camarades Benoît et Mike en particulier sont pas très friands de jeux vidéo, hein, si je ne m'abuse.
Moi j'aime bien, mais j'ai jamais vraiment joué beaucoup.
C'est ça. Ah d'accord, je comprends bien.
À Mario Kart et puis à Street Fighter 2, mais ça c'est les références
la bonne époque,
sont trop vieilles.
Hein.
Moi j'attends le prochain Civilization, c'est tout.
Civilization Beyond Earth.
Oh oui. Voilà.
Oui, effectivement. Bon, bah, ceux qui me connaissent et ceux qui suivent mes émissions depuis longtemps savent que si vous pensez que je suis passionné par la tech, vous ne savez pas à quel point je peux être passionné. Et c'est plutôt les jeux vidéo qui sont ma vraie passion. Malheureusement, je peux pas trop en parler publiquement parce que je travaille pour une société de jeux vidéo, donc. Je vais juste faire un parcourir, survoler les news de l'E3 de manière un petit peu générale. Mais on va quand même en toucher un petit mot parce que c'est un sujet connexe de la tech qui est très important. Oui, Ben.
C'est cool parce que nous, on peut vraiment, tu sais, souvent on essaye de dire des choses intelligentes. Là, ça sera vraiment pas le cas. Alors, si vous pensez que d'habitude, on dit pas des choses intelligentes. Voilà, là, vous... Mais une question de base, c'était où l'E3, ça se passe où?
Los Angeles.
D'accord, ok.
Oui, alors bon, l'E3 a une histoire un petit peu chaotique, mais c'est Los Angeles principalement, et depuis plusieurs années, ils sont revenus à Los Angeles.
Est-ce que tu y étais?
Non, pas du tout. Ah. Non, l'E3, je l'ai jamais fait. J'ai fait le Tokyo Game Show, j'ai fait la BlizzCon plusieurs fois, j'ai fait des salons à Paris, j'ai fait la Gamescom plusieurs fois aussi, mais jamais l'E3. Peut-être un jour. Bref, il y avait évidemment plusieurs conférences des grands constructeurs et des grands éditeurs du jeu vidéo. Microsoft a commencé. La chose à retenir, c'est que Microsoft avait fait un faux départ avec sa conférence de présentation de la Xbox One l'année dernière. Cette année, ils ont vraiment essayé de corriger le tir en se recentrant de manière très très claire sur les joueurs, en ne parlant que des jeux et en oubliant tout ce qui était... centre de divertissement, partenariat avec la télé, fonctionnalités annexes, etc. Non, ils n'ont parlé que des jeux, que des jeux, que des jeux, à tel point que le Kinect, qui était un accessoire qui était à l'époque vendu obligatoirement avec leur console Xbox One, n'a quasiment pas été évoqué. Aujourd'hui, pour être en concurrence avec la PlayStation 4, ils vendent une nouvelle version de leur console. Enfin, plutôt la même version de leur console, mais sans Kinect, qui est moins chère que la version originale. Donc, le Kinect, qui était annoncé comme une fonctionnalité essentielle pour la console, a vraiment été mis de côté. Certains disent que c'est un désaveu de leur propre politique. D'autres disent que c'est le courage d'écouter les critiques et de se recentrer vers ce que les gens veulent. Moi, je suis... Bon, je vous laisserai faire votre propre avis. Ce qui est clair, c'est que le Kinect n'a pas du tout été, ou presque pas été évoqué. C'est assez surprenant, mais finalement, ils ont parlé des jeux, ce qui était la chose principale à l'E3. Sony a parlé un petit peu de Morpheus, vous savez, son équivalent de l'Oculus Rift, les lunettes 3D virtuelles, qui ont été évoquées, peut-être un petit peu moins qu'on attendait, ils sont passés rapidement un petit peu dessus. Ils ont parlé aussi du PS Now, qui est, vous savez, cet équivalent de OnLive, ce service qui vous permet de jouer à des jeux qui sont sur des consoles distantes et qui ne vous envoient que la vidéo. Vous avez votre manette et quand vous allez à droite à gauche sur la manette, ça envoie le signal jusqu'au serveur qui est en train de calculer le jeu, sur lequel le jeu tourne, et le serveur vous renvoie l'image avec les mouvements que vous avez faits. Alors, beaucoup de gens disaient, et notamment notre camarade Yann du Rendez-vous Tech, qu'il n'y croyait pas du tout. À l'époque de OnLive, on a vu que ça marchait plutôt pas mal. Yann a continué à ne pas y croire. Maintenant, le PlayStation Now marche plutôt pas mal, visiblement. Yann, je suis certain qu'il n'y croit toujours pas. On verra ce que ça donne.
C'est quoi l'avantage de ça, d'avoir cette technologie-là?
Alors, l'énorme avantage, il y en a plusieurs, mais l'énorme avantage, c'est que vous pouvez faire tourner, en théorie, vous pouvez avoir sur n'importe quelle machine, n'importe quel jeu. C'est-à-dire que, comme le jeu est lancé, ou le logiciel, ou n'importe quoi est lancé à distance, eh bien, vous n'êtes pas obligé d'avoir la machine qui peut faire tourner ce jeu ou ce logiciel. Donc, vous pouvez, par exemple, jouer à des jeux PlayStation 3 sur la PlayStation 4, qui n'est pas compatible, qui n'est pas rétro-compatible avec la console de l'ancienne génération. Donc ça ouvre le catalogue énormément. Vous pouvez aussi jouer à des jeux PlayStation 3 sur votre PlayStation Vita, la version portable. Vous pouvez même jouer à tous ces jeux qui seront proposés, que ce soit d'ailleurs des jeux PlayStation 3 ou peut-être à terme, pourquoi pas carrément des jeux PlayStation 4 ou des jeux PlayStation 2, PlayStation 1, quoi que ce soit. Vous pourriez y jouer sur une télévision. Il suffit d'avoir un processeur très très faible puissance, même dans un navigateur. À terme, on se doute que ça pourrait même arriver à une mutation de tout le service PlayStation qui pourrait devenir, pour les gens qui veulent vraiment du jeu sérieux, une machine chez eux pour être sûr d'avoir le truc top of the line. Mais pour les gens qui sont un petit peu moins hardcore gamers, simplement jouer comme ça en étant abonné ou en achetant des jeux sur PlayStation Now, en jouant dans leur navigateur, sur leur tablette, quoi que ce soit.
Alors, après toutes ces années, on revient à l'IBM mainframe, c'est ça que j'ai compris.
Exactement, les clients fins, les clients légers et un immense ordinateur quelque part. Une autre chose plutôt amusante, c'était un petit jeu indépendant. Bon, je vous cache pas qu'il y a eu énormément de gros jeux présentés. C'était l'explosion de jeux, des graphismes incroyables, etc. Beaucoup plus que l'année dernière, mais il y a eu un petit jeu assez intéressant présenté chez Sony, qui est presque une démo technique, mais qui s'appelait No Man's Sky, qui est un jeu d'exploration spatiale, qui était assez séduisant parce que la démonstration montrait une exploration sur une planète. Une personne marchait en vue à la première personne. Il voyait des animaux un petit peu étranges sur cette planète. Et puis, il rentrait dans un vaisseau, décollait, quittait la planète, quittait l'atmosphère, allait dans l'espace. Tout ça sans interruption, de manière totalement fluide. Et puis, il allait faire un petit combat dans l'espace. Et puis, il se dirigeait vers une autre planète. Il atterrissait sur l'autre planète. Il explorait encore des choses, etc. Donc, c'est une vraie exploration totalement libre. Et les développeurs disaient, ils sont que 4, hein, c'est une toute petite équipe, les développeurs disaient que l'univers était, je les cite, infini, ce qui est évidemment impossible en théorie, mais en fait, c'est l'univers entier est un algorithme géant. C'est-à-dire que l'univers est en théorie, selon leur dire, infinie, ou en tout cas vraiment immense, et chaque personne qui commencera à jouer commencera sur une planète différente qui sera créée pour lui de manière aléatoire, de manière algorithmique, et même plus que ça, la chose qui est vraiment intéressante intellectuellement, c'est que le jeu entier n'existe, enfin la représentation de cet univers n'existe que quand vous allez dans la zone en question, c'est-à-dire que avant que vous n'y alliez, elle n'est pas représentée graphiquement, elle n'existe pas, elle est juste algorithmique. Donc, bon, c'est quelque chose un petit peu étonnant, un petit peu difficile à comprendre, mais c'était l'explication qu'ils ont donnée. Je trouvais ça intéressant. Si vous avez plus de détails, n'hésitez pas à venir nous les donner sur les notes de l'émission, enfin dans les commentaires de l'émission. La présentation de la conférence Ubisoft était plutôt réussie, j'ai trouvé. Il y avait plein de jeux intéressants, des choses vraiment impressionnante. La chose que je retiens, c'est le prochain Assassin's Creed. Pourquoi ? Parce que évidemment, il est à Paris et il se passe pendant la Révolution française. Au-delà de la performance graphique qui était assez impressionnante avec les foules qui étaient plus denses qu'on n'en a jamais vu sur des consoles et les visions les distances de vue dans la ville quand on était posé sur un toit, on avait vraiment l'impression que la ville était immense et qu'elle était à perte de vue. Au-delà de tout ça, donc, c'est le Paris de la Révolution qui moi, vraiment me parle, bien sûr, étant parisien. Donc, c'était quelque chose d'assez intéressant.
Juste un petit détail technique, là. Moi, j'ai vu que le débat infernal sur le fait qu'il n'y avait pas de personnage féminin, oui. Et la défense qui disait, ouais, en fait, c'est hyper dur à faire au niveau des photos recommencées. Et bon, je lisais beaucoup de gens qui disaient que c'était n'importe quoi. Est-ce que c'est vraiment n'importe quoi ou...
C'est un petit peu compliqué. C'est un débat qui mériterait d'avoir lieu, qui est un débat un petit peu plus long que ça. Il est certain que les minorités en général et les femmes sont beaucoup moins représentées dans les jeux vidéo. C'est très certainement dommage. Il y a la question de l'image des femmes même dans les jeux vidéo qui est un grand débat. Dans le cas de Assassin's Creed, généralement, les gens comprenaient ce qu'il voulait dire. D'une manière générale, dans les jeux vidéo, c'est vrai que les femmes sont malheureusement sous-représentées ou mal représentées. Encore une fois, c'est un grand débat qu'il n'est pas forcément possible d'avoir ici tout de suite, mais qu'il est toujours bon auquel il est toujours bon de réfléchir.
Je suis juste en marché sur des œufs là. Ok, d'accord. Et
c'est un peu une mission de Ben. Hein. De faire venir les femmes dans la tech.
Mais oui, moi tu sais, je suis un féministe convaincu. En plus, je suis marié à une Scandinave, donc j'ai intérêt. Mais j'ai toujours été très, très, très pro égalité des sexes. Et c'est quelque chose que je défends avec beaucoup de passion. Donc, je suis plutôt de ton côté, Ben. Et dans ce débat, d'une manière générale, je suis plutôt de ton côté aussi. Donc, voilà. Electronic Arts. Du classique et du bon, c'est ce que j'ai noté dans les notes. C'est plutôt quelque chose de classique chez Electronic Arts, mais on s'attend toujours à quelque chose de solide, et c'est ce qu'ils nous ont présenté, particulièrement dans les jeux de sport qu'ils ont toujours chaque année dans leur escarcelle. Nintendo nous a fait une séquence d'introduction. Oui, bien sûr, vas-y, Mike.
Question sur une. Alors, je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre, mais j'ai lu une étude qui est sur les 10 compagnies les plus haïes aux États-Unis.
Oui, hier en fait partie. Ouais.
Et moi, j'hallucinais parce que je lis McDonald's, Abercrombie, ok, pourquoi? Et troisième, EA. Alors, je comprends pas comment une boîte de jeux vidéo peut être haïe par les consommateurs.
C'est une grosse question, ouais. Il y a beaucoup de soucis à ce niveau. La politique commerciale de certaines sociétés de jeux vidéo est très critiquée par des gens qui sont très actifs sur Internet, en fait. Et comme ces sondages sont généralement faits sur Internet, parfois, ça oriente un petit peu, tu vois, le fait que EA, qui est finalement une grosse société de jeux vidéo, mais au niveau de toutes les sociétés du monde, peut-être qu'elle n'a pas autant d'importance. Peut-être que ça s'explique un peu par là. Okay. Mais bon, il y a d'autres choses aussi qui rentrent en ligne de compte. Mais Nintendo, qui est une société très aimée des fans de jeux vidéo, a fait une séquence d'introduction très intéressante avec le président monde et le président États-Unis qui se battaient dans une séquence de jeux de combat qui était très inattendue pour, bah, c'est des grands présidents de grosses sociétés, vous voyez, bon, de jeux vidéo évidemment. Ils ont fait une séquence assez marrante où ils se battaient l'un contre l'autre comme Dragon Ball ou des super-héros, quoi. C'était pas mal du tout. Et ils ont présenté aussi un nouveau Zelda sur Wii U qui a évidemment émerveillé tous les fanboys du monde, même si on a vu exactement trois images. J'avoue que j'ai été assez séduit aussi. C'était très, très beau.
Est-ce que, parlant de Nintendo, est-ce que tu as vu le nouveau film avec Ken et Ryu de Street Fighter?
Le nouveau... Ah, ben, c'est pas Nintendo du tout. Hein, mais,
non, je sais.
Oui, c'était un film qui a été fait par Machine Image, je crois.
Oui, je crois. Assez sympa, spécial. Pas assez long, mais assez intéressant. Enfin, moi qui étais un énorme fan de Street Fighter, j'étais tout content parce que j'ai pu finalement comprendre pourquoi Ryu et Ken étaient des amis. Et ça a déclenché vraiment plein de... Ça a répondu à plein de questions que j'avais étant gamin.
Bah, j'ai regardé, il est sorti il y a trois semaines peut-être, quelque chose comme ça. Effectivement, c'est une production, bon, c'est genre téléfilm, c'est un peu cheap, mais c'est marrant, si vous êtes fan de Street Fighter, c'est en 8 épisodes, je crois, de 10 minutes, quelque chose comme ça. Donc, cherchez ça. Je sais plus comment il s'appelle, d'ailleurs, le film Street Fighter. Bon, bref, vous trouverez ça, Machinima Street Fighter. C'était marrant. Franchement, je me suis bien marré. Je pense que si vous n'êtes pas un fan de Street Fighter de la première heure, ça vous parlera pas forcément. Mais si c'est le cas... Donc bon, voilà en gros les choses que j'ai retenues de l'E3. Je voudrais en parler beaucoup plus évidemment, mais je m'abstiendrai. Le bilan, en gros, pour moi, c'est que la next gen commence. Cette année, il y a vraiment des graphismes impressionnants. Il y a des choses qui vous en mettent plein la vue. Il y a des comme je le disais, le nombre de personnages dans les foules est vraiment impressionnant. La distance de vue, et évidemment, la qualité graphique en général est améliorée. Donc, pour moi, c'était un bon E3, solide, avec beaucoup de jeux. Et on a la tradition de demander qui a gagné cette E3 des constructeurs, quelle était la meilleure conférence. Pour moi, je fais un petit peu l'école des fans. Je dirais tout le monde a gagné. C'est vraiment les gamers qui ont gagné cette fois-ci. Oh. Il y avait tellement de jeux, tellement de trucs... à la fois en 2014 pour parfois des suites de licences existantes mais vraiment remises au goût du jour, et 2015 pour des choses qu'on peut attendre avec passion et avec excitation. Pour moi, c'était vraiment les gamers, les joueurs qui ont gagné cette E3, et je suis content de voir que la nouvelle génération commence vraiment. Je vais enfin pouvoir m'acheter des consoles de nouvelle génération.
Et moi, j'ai une question par rapport à Oculus Rift. On en parle beaucoup ces temps, qui a été racheté par Facebook. Est-ce qu'il y a des jeux qui sortent sous Oculus Rift, et sinon, dans combien d'années tu penses que ça sera vraiment quelque chose de mainstream avec lequel on jouera et on s'amusera?
Alors mainstream, je sais pas. Ce qui est clair, c'est que Oculus Rift est une force avec laquelle il va falloir compter ces prochaines années. Que ce soit l'Oculus Rift lui-même ou le projet Morpheus d'ailleurs, il n'est pas impossible qu'on en voit d'autres même arriver. Et disons d'ici 2-3 ans, si Microsoft en sortait un aussi, ça m'étonnerait pas tellement. Mais ce qui est clair, c'est que il va y avoir des jeux, c'est certain. Tout le monde s'intéresse au projet. Est-ce que la grande question, en fait, ça va être, est-ce que pour les jeux, en tout cas, ça va rester un produit un peu de niche? Est-ce qu'on va pouvoir avoir des expériences qui bénéficient vraiment du fait d'avoir l'Oculus Rift, d'avoir une vision en 3D, en réalité virtuelle? Ou est-ce que ça va rester un accessoire en plus, qui sera très bon pour certains jeux, mais qui n'apportera pas de bénéfices clairs et notables pour tous les gamers? Donc c'est la grande question. Ce qui est clair, c'est que il y a un vrai intérêt autour de ce produit, contrairement aux choses qu'on a pu voir précédemment, comme le motion gaming ou même la 3D, qui étaient des choses qui étaient intéressantes, mais plus casual, plus consumer, plus public au sens large. Là, on a un intérêt pour les vrais gamers aussi.
Bon, moi, ce que j'aimerais voir l'année prochaine, c'est notre Patrick à E3. Donc voilà. Et si ça, on prend pas le chemin, on va aller sur change.org et on va lancer la pétition.
C'est marrant.
Ou bah, alors, écoute, on va être...
Dieu t'entende, Ben, Dieu t'entende.
On va soutenir Patrick en lui donnant de l'argent et en faisant des donations pour qu'il puisse y aller à E3.
Avec le Patreon.
Tout à fait.
Eh ben, écoute, justement, parlons un petit peu du Patreon pour remercier les gens qui donnent des sous pour soutenir le Rendez-vous Tech. Je vais encore remercier certains de nos généreux patriotes. Je vais donc remercier Cyprilius, Dutch Damien, Thierry Le Riche, bah Le Riche, c'est bien pour un patriote, pour un donateur. Daoud Wam, Arthur, Adrien Vio, Maël Vallet, Jean-François Nicolas, Dwalan et Cédric Desgranges. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui donnent des sous au Rendez-vous Tech sur patreon.com/rdvtech ou alors sur lrdv comme le rendez-vous.com. lrdv.fr. Vous savez quoi? Plutôt que de vous refaire un énième laïus sur le Rendez-vous Tech et sur le Patreon, je vais plutôt vous passer des messages de patriotes qui nous ont envoyé les messages préenregistrés à passer, parce que vous savez qu'à partir d'un certain niveau, on a droit, l'une des récompenses, c'est le fait d'envoyer des messages. J'avais limité un petit peu les choses parce que je me disais, si jamais beaucoup de gens envoient des messages, je veux pas transformer la fin de l'émission en un truc interminable. Finalement, je me rends compte que les gens ne donnent pas tellement pour avoir droit aux récompenses. En fait, ils sont beaucoup plus généreux que ça. Les gens donnent vraiment pour soutenir l'émission. Donc, au final, on n'a pas tant de messages que ça. Donc, je vais repasser des messages qui avaient déjà été passés. Ce sont ceux de Jeff et de Jean qui font la promotion de leurs propres émissions. E-Teachers pour Jeff. Le nom est assez explicite. Et Papa à quoi tu joues pour Jean. Je vais les laisser vous en parler. Voilà leurs deux messages.
Bonjour à vous, chers auditeurs du Rendez-vous Tech, et merci Patrick de me laisser un peu de temps dans ton émission. Certains le savent, avoir un enfant, ça prend du temps. Et tout joueur de jeux vidéo que vous aviez pu être n'a pas résisté à l'arrivée du divin enfant, et la console et les jeux n'y ont pas résisté non plus, et sont souvent passés aux oubliettes. Vous n'avez plus le temps, et surtout plus l'envie de passer du temps sur un jeu sans savoir si ça vaut le coup, et surtout s'il vous est possible d'y jouer avec votre emploi du temps de ministre. Eh bien, Papa à quoi tu joues, c'est chaque mois une sélection de news, un ou deux jeux sur lesquels passer un peu de temps libre avec ou sans votre enfant, et aussi de quoi remplir les plages de temps libre hors jeux vidéo. En une phrase, Papa à quoi tu joues, c'est le podcast pour les parents et les gens très occupés vous ouvrant une petite porte sur la culture vidéoludique. Rendez-vous donc sur http://www.papaacquoitujoues.fr. Sur Google+ et Facebook, Papa à quoi tu joues, et sur Twitter, Papa à quoi tu joues, sans S. Le podcast est également disponible sur iTunes. À très bientôt, j'espère.
E-Teachers, le podcast des profs numériques qui parle enseignement, TIS, innovation et expérimentation. Des outils, des ressources et des invités sur www.e-teachers.fr. Vous retrouvez-nous sur les principaux réseaux sociaux et iTunes.
Donc voilà, merci Jeff, merci Jean. Si vous voulez, vous aussi, si vous êtes à ce niveau de Patreon, de Patriote, et que vous voulez envoyer des messages, n'hésitez pas. Finalement, on n'en a pas tant que ça, donc peut-être qu'on passera les vôtres. Normalement, ils seront en fin d'émission. Hein. Là, je fais un petit peu de pub pour les messages. Je les mettrai en fin d'émission plutôt, à la toute fin de l'émission, mais ça peut vous filer un coup de main. Et puis surtout, ça me fait plaisir de faire comme ça, participer la communauté, et en particulier les Patriotes. Donc, voilà pour ça. Encore une fois, si vous voulez soutenir le Rendez-vous Tech, c'est lrdv.fr, comme le rendez-vous.fr, ça vous redirige vers la page Patreon. Merci à tous les Patriotes, 1000 fois, merci, merci, vous êtes plus de 350, donc 350, merci, fois 1000. Donc, news et rumeurs, les sujets suivants. Benoît, Mike, vous êtes à peu près en train de passer le bac, non? Bon, vous êtes en Suisse, mais pas tout à fait. Non. Bon, une fois de plus, les sujets du bac fuitent sur Twitter. Bon, certains sujets du bac fuitent sur Twitter. C'est le sujet de philo. Alors, bon, finalement, on s'en fout. C'est juste pour avoir l'occasion de vous poser un petit peu les questions de philo de cette année. C'est déjà passé, donc on peut en parler. Hein. C'était aujourd'hui au moment où on enregistre. Premier sujet, suffit-il d'avoir le choix pour être libre ? Deuxième sujet, pourquoi chercher à se connaître soi-même ? Vous avez une préférence ?
Ah. Moi, sujet 2, moi, c'est Quantified Self.
C'est vrai ? Ah, pas mal. Moi, j'aime bien le premier, c'est un sujet très intéressant. Suffit-il d'avoir le choix pour être libre ? Franchement, c'est une question. Ouais. C'est vraiment de la pure philosophie, là.
Mm-hmm. Les deux sont des sujets un peu. C'est gros comme des maisons, hein. C'est des hyper classiques, mais les deux sont géniaux.
Oui, on est quand même au niveau terminal. Enfin, au niveau terminal, tu vois, c'est une année de philosophie quand même pour la plupart des étudiants. Donc, on va pas non plus plonger dans les tréfonds de.
C'est une année de plus que ce que j'ai fait déjà.
Et toi, toi, tu la vis la philosophie. C'est ça. T'es un praticien, t'es pas un théoricien.
Bon, un sujet un petit peu moins profond, mais philosophique quand même. Vous savez que les taxis dans l'Europe entière ont fait des alors je vais retrouver le mot, j'étais à Rome pendant quelques jours, donc j'ai oublié, tu vois, c'est très français, des grèves, voilà, c'est ça, des grèves pour protester contre Uber. La chose marrante, c'est que à Londres, au début de la grève, le nombre de créations de comptes chez Uber a augmenté de 850%. D'autant plus qu'ils avaient fait quelque chose de très intelligent. Ils avaient divisé par deux le prix des courses Uber pour les gens qui utilisaient des courses à plusieurs, donc qui faisaient du covoiturage avec Uber. Donc, ouais. Bon, on sait ce que je pense d'Uber.
Mais ils devraient savoir. Les États-Unis, ils ont essayé de faire la même chose et ça n'a pas marché. Ça a juste fait plus de pubs que pour Uber. En tout cas, moi, je reviens.
Là, c'est la preuve.
Où j'ai passé 6 jours et j'ai été halluciné, non pas des taxis jaunes que j'ai que pris, mais des taxis noirs, limousines qu'on voit par centaines de milliers à New York et on se dit « Waouh, Uber, ça marche ».
Et en plus, au moment où ils ont lancé leur grève, Uber a aussi lancé une plateforme pour taxi qui s'appelle Uber Taxi, donc qui permet de mettre en relation, enfin d'amener les bénéfices d'Uber aux taxis qui s'inscrivent avec cette plateforme. Je me demande combien de temps il va falloir jusqu'à ce que les taxis s'inscrivent sur ce type de plateforme.
Ils le font déjà, ils s'inscrivent même à plusieurs, hein, ce qui n'est pas sans causer problème. Mais un truc dans la communauté tech, c'est j'aimerais avoir un petit peu plus d'empathie vis-à-vis des chauffeurs de taxi. Ce n'est pas qu'ils ont raison de manifester, mais mine de rien, il y a quand même, ils expriment quelque chose, quoi. Et c'est pas facile d'être dans la situation où on voit les choses arriver comme ça.
Oui. C'est pas facile. Le gros problème avec l'industrie du taxi. Alors moi, je parle de Paris, c'est ce que je connais, mais ils ont très peu de sympathie. Je parle pas d'empathie, mais de sympathie en tout cas au niveau des Parisiens, parce que le sentiment qui est à mon sens justifié, mais peut-être qu'on pourra me contredire, c'est qu'ils se sont mis eux-mêmes dans cette situation à cause de pressions qu'ont fait les lobbies qui ont laissé la situation des taxis à Paris se dégrader au cours des années. Donc, il est difficile d'avoir de l'empathie pour des gens qui sont responsables de leur situation qui est effectivement malheureuse et difficile, hein. Mais en même temps, si on leur dit « Attention, ça va pas, ce que vous faites, c'est pas cool, franchement, c'est pas bien », pendant des années et des années, et qu'au bout d'un moment, quelqu'un arrive en disant « Ah, moi, je peux vous proposer autre chose », et qu'on y va, c'est difficile quand le type à qui on a dit fais gaffe, vous dit « Ah bah merde, attends, non, mais attends, qu'est-ce que tu fais ?»« Non, ok, bon, attends, je vais changer ça, je vais faire ça comme ça. » Et puis lui, non, il n'a pas le droit de venir sur mon marché. Je schématise un peu, mais c'est une raison pour laquelle il est difficile d'avoir de l'empathie pour les taxis, je pense.
Et je pense, regardez l'Allemagne. L'Allemagne, c'est un super bon exemple, parce que l'Allemagne, les taxis, ils ont toujours été très bons. Ils ont toujours eu, souvent, c'est des Mercedes, donc on est très bien posé. Il y a toujours eu de la qualité. Et non seulement ça, mais ils ont développé une app qui s'appelle My Taxi, qu'on trouve partout en Allemagne. C'est une espèce d'Uber-like pour commander ses taxis. Et on le voit partout, dans toutes les grandes villes, et ça marche. Et c'est pour ça qu'Uber ne se développe pas incroyablement en Allemagne, parce que les taxis ont compris, ils ont répondu technologiquement et aussi par la qualité.
Ben, peut-être que, enfin, à Paris, on a, enfin, en France, hein, maintenant, on a des équivalents d'Uber chez les apps de taxi, mais peut-être que c'est arrivé tard, c'est arrivé en réaction à Uber, peut-être qu'en Allemagne, ils l'ont fait avant.
Oui.
Je sais pas.
Ouais, oui, bah, voilà. Ils l'ont fait avant. D'ailleurs, je crois que c'est les frères copieurs qui ont fait ça. Je me souviens plus de leur nom.
Les fameux, Samver, là. Ouais.
Oui, qui ont investi là-dedans. Et puis, Ben, j'ai de l'empathie, mais tu sais, ceux qui conduisaient les chevaux en 1900, j'avais aussi de l'empathie, mais le métier a changé. Désolé.
Non, mais c'est ça qui est important, je veux dire. Toi, je trouve que c'est un peu, ce que je reproche, c'est la facilité avec laquelle dans le monde tech, on dit, ah voilà, c'est bien fait pour eux, puis on passe à autre chose, toi. Ça touche beaucoup de gens, mine de rien, et ça touche, c'est des vraies situations. Et, lis certains tweets et ça, je me dis, mais hey, revenez aussi. Alors oui, dans 20 ans, il n'y aura plus rien de tout ça, mais toi.
Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est des vraies personnes et c'est des vrais gens qui sont affectés de manière parfois très grave par ces changements. C'est vrai qu'on a parfois tendance à l'oublier. T'as raison de le rappeler, Benoît. Le vrai changement vient aussi de Elon Musk, qui est l'idole des gens de la tech, et je crois de Mike.
Oui, qui... l'Edison moderne, on l'appelle.
C'est ça. Donc Elon Musk a annoncé, bon, c'est un, tu nous feras un petit historique d'Elon Musk, Mike, si tu le souhaites. En tout cas, il est le patron de plusieurs sociétés qui font plein de choses intéressantes, et notamment Tesla, qui construit des véhicules électriques, des voitures électriques, et il a annoncé il y a quelques jours qu'il allait libérer toute une série de brevets qui sont, vous le savez, hein, le nerf de la guerre de la Silicon Valley, finalement, de l'industrie tech, et que les gens protègent à coup de procès et de millions de dollars. Eh bien, lui a dit « Ok, pas de problème, moi je pense que pour le bénéfice de l'humanité, ou en tout cas de l'industrie automobile, je vais libérer les brevets et les offrir à toute l'industrie. » Alors, je schématise un petit peu. Est-ce que vous pourriez préciser un peu la chose, ou est-ce que je fais moi-même le contrepoint?
Non, c'est un gros coup marketing. C'est vraiment, je vous donne l'air gratuit, profitez-en, quoi. Alors, c'est gentil, mais en même temps, il y a deux besoins assez clairs, hein, de Tesla. C'est d'une part d'ouvrir le marché de la voiture électrique, qui représente encore très très faible pourcentage aux États-Unis, en croissance, mais pas assez forte. Et puis, d'autre part, c'est pas des brevets, selon la presse qui s'intéresse un petit peu à ce genre de questions, c'est pas des brevets tellement puissants qu'ils auraient même pu attaquer quelqu'un. Déjà, c'est pas tellement dans la règle de l'industrie automobile de le faire, donc ça aurait été difficile. Ils se battent contre des géants qui auraient pu les étouffer, les faire couler sous les contre-procès. Donc, finalement, ils n'avaient pas grand-chose à en faire. D'autant plus que c'est pas de l'open source qu'ils font. Ils gardent les brevets, ils décident juste de ne pas attaquer avec. Donc franchement, qui attaque, hein? La plupart des boîtes n'attaquent pas avec leurs brevets. Donc c'est gentil, c'est super, c'est un joli coup de pub, mais bon, c'est gratuit pour eux aussi, quoi.
Ouais, c'est vrai que... Pardon Mike, tu voulais intervenir?
Non, moi je trouve que c'est un joli coup de pub, c'est gratuit, mais je trouve que c'est un bon move et ça va dans la bonne direction. Alors certains disent ouais, c'est parce qu'il avait pas de patente, c'est pour ça qu'il le fait, et puis de toute façon il en avait besoin. Moi je trouve que ça va dans l'élan que Elon Musk est dans le caractère qu'Elon Musk a toujours développé. Donc je pense que ça va avec la personne et il va dans une bonne direction. On dit toujours ouais, il faut faire quelque chose, ouais, c'est pas bien la manière dont les patentes sont gérées aux États-Unis. Voilà au moins une boîte qui fait quelque chose pour aller de l'avant.
Je crois qu'on est effectivement, je pense qu'on est un petit peu que les deux visions peuvent être vraies. C'est vrai que Tesla, il y avait un très bel article sur The Verge qui disait c'est quelque chose de très excitant, de courageux, etc. Mais c'est aussi un signe de faiblesse. Et c'est vrai. Si Tesla fonctionnait, donc les voitures qui sont très très bien, hein, les voitures sont vraiment bonnes, les voitures qu'ils construisent. Si ils avaient le succès qu'ils voudraient avoir, je pense pas qu'ils le feraient. Je pense pas qu'ils auraient besoin de le faire. Donc, mais là, c'est vraiment autant pour ouvrir les brevets que pour amener d'autres sociétés à utiliser leur technologie dont ils bénéficieront ensuite, et surtout à étendre le marché des véhicules électriques qui leur bénéficiera aussi au bout du compte, hein, puisqu'ils veulent amener des véhicules électriques. Et pourquoi pas, en même temps, donner un signal fort dans le domaine des brevets et bénéficier à l'humanité avec une sorte de facilitation de l'évolution, de l'arrivée des véhicules électriques et le fait qu'on soit moins dépendant des énergies non renouvelables, bien sûr, hein, du pétrole. Tout ça n'est pas incompatible entre eux. Là encore, j'en parlais sur le Daily Tech News Show avec Tom Merritt, mais on a souvent tendance à vouloir avoir une vision unitaire d'un petit peu tout. Apple, c'est des gentils. Google, c'est des méchants. Google, c'est des gentils. Apple, c'est des méchants. Elon Musk, c'est le Tony Stark de la vie réelle. les sociétés, c'est des géants maléfiques. Ou alors, non, Elon Musk, c'est un ange qui veut bénéficier à l'humanité. Bon, peut-être que là, en l'occurrence, toutes ces raisons mises ensemble font que c'était cohérent de faire ce qu'il a fait, ce qui est plutôt courageux. C'était pas quelque chose d'attendu, et c'était quelque chose de certainement un petit peu difficile à faire passer à des gens qui réfléchissent de manière traditionnelle dans le monde de la tech. Donc voilà, moi je trouve ça plutôt intéressant, et c'est pas forcément soit machiavélique, soit angélique, quoi.
Non, c'est ça. Je pense que tu as raison. C'est calculé. Et donc, ça implique qu'il y a, il y a des deux. Il y a une compréhension des risques.
Eh ben, peut-être que d'autres personnes feront le même calcul à l'avenir et que ça sera quelque chose qui, un mouvement peut-être qui pourra être suivi par d'autres. On sait que, notamment que Twitter n'attaque pas les gens avec leurs brevets. Ils ne l'ont jamais fait, ils ne l'utilisent que de manière défensive. Et c'est quelque chose qu'ils ont annoncé publiquement. Ce n'est pas toujours le cas. L'innovation à la française, monsieur. Darty, la grande société de vente d'électroménager, veut créer le bouton Darty. Le bouton, c'est une sorte de petit appareil qui se colle à votre frigo, par exemple, ou sur une surface métallique. Vous prenez un abonnement de 2 euros par mois et vous pouvez appuyer sur ce bouton qui est connecté et qui vous fait, qui vous rappelle, enfin qui fait qu'un des conseillers de chez Darty vous rappelle immédiatement pour vous conseiller sur un problème que vous pourriez avoir.
Ah, faut pas avoir des enfants, hein, sinon Darty vous rappelle.
Bonjour monsieur. Alors franchement, j'ai même pas pensé, moi qui ai une petite fille, j'ai même pas pensé à ça. Moi j'ai dit tout simplement génial. C'est ce que Amazon essaye de faire avec son Kindle Fire et son bouton pour connecter. Franchement, j'y avais jamais pensé. Je trouve que Darty, il faut savoir qu'ils sont extrêmement bons, aussi extrêmement bons sur le web, parce que c'est aussi leur manière de communiquer. Ils ont jamais communiqué à travers des catalogues et des choses comme ça. Ils sont toujours axés énormément sur le web. Et ça, je trouve que c'est une très bonne idée. Pourquoi? Parce que quand tu parles à un consommateur, tu réponds à son problème et tu peux lui vendre des produits derrière. Et Darty, c'est connu pour le service. Je trouve que ça, c'est un réel service pour les gens. Maintenant, je me dis 2 euros par mois. Comment est-ce qu'ils vont réussir à scaler ça? Je sais pas comment on dit en français scaler, mais voilà. Si toute la France commence à appuyer sur le bouton Darty, attention, quoi.
Bon, à mon avis, 2 euros par mois, tout le monde va pas le faire parce que ça va être difficile de faire comprendre vraiment l'intérêt de la chose parce que à quoi ils peuvent répondre les gens qui vont appeler? Bon, c'est des conseillers, ils parlent de l'équivalent d'une conciergerie. Donc concierge d'un hôtel, hein, pas concierge, mais qui va identifier. Alors ils disent identifier en interne une personne compétente, susceptible de répondre à la question posée. Moi, je pense que c'est une très bonne idée. Le problème que je peux imaginer, c'est le nombre de personnes qui vont appuyer sur le bouton pour dire « Oui, allô, mon internet ne marche plus. Bah oui, j'ai du bleu sur mon écran, je comprends pas ce qui se passe. » Et là, pour aider le mec, bonjour. Et le problème, c'est que même pour 2 euros par mois, si le type il paye 2 euros par mois et que tu lui résous pas son problème, et un problème qui est concrètement impossible à résoudre si c'est des problèmes d'informatique, parce que les gens ne savent pas comment marche leur truc, il va pas être content le type à qui t'as pas résolu le problème. Alors tu vas lui envoyer un réparateur peut-être. Oui. À mon avis, le réparateur, il va falloir le payer parce que 2 euros par mois, ça va pas couvrir les réparations. Mais bon, l'idée est bonne. Il faut voir ensuite comment c'est implémenté. Mais je trouve ça intéressant.
Moi, j'ai connu une société, que je tairai le nom, mais qui a commencé à se développer en voulant faire de la vidéo en ligne. C'est-à-dire, ils vendent des produits. Et vu que c'est des produits haut de gamme qu'ils doivent expliquer, ben voilà, la personne, elle c'est comme un Skype, mais en ligne. Et voilà, il peut directement causer avec une personne et lui explique le produit et tout ça. Donc, je sais qu'on y, en tout cas, aujourd'hui, à l'heure actuelle, ça fonctionne pas énormément, mais il a comme un studio. Et il peut répondre aux gens. Et je trouve que c'est très précurseur, c'est presque trop précurseur, mais je pense que d'ici 2 à 3 ans, voire 5 ans, les gens seront beaucoup plus habitués à utiliser ce genre de trucs. Et je pense que Darty va dans la bonne direction.
Oui, 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 moi je pense que c'est effectivement quelque chose d'intéressant et à explorer, quoi. Pardon, Benoît.
Ouais, et puis il y a un petit truc tout bête qu'ils ont fait pour être sûr qu'il n'y a pas des gens trop nuls en tech qui vont utiliser ça, parce que de ce que je comprends, pour utiliser le bouton, il faut avoir un smartphone d'une part et d'avoir téléchargé l'app et de s'être inscrit. Donc voilà, les gens qui n'arrivent pas à faire ça et qui risquent de poser des questions vraiment trop, genre je sais pas comment brancher ma télé, eh ben ils n'arriveront pas à s'inscrire non plus au bouton Darty. Donc c'est réglé.
Peut-être, ouais. Peut-être, effectivement. Bon, encore, si c'est je sais pas comment brancher ma télé, c'est possible de résoudre. Le problème, c'est quand t'as le type qui a son ordinateur sous Windows 95 truffé de botnet et de virus qui te dit bah, je comprends pas, j'arrive pas à installer tel ou tel truc,
mon Word marche plus. Ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que c'est l'inverse de la Connected Home. on dit toujours, ouais, il faut que tous les objets soient connectés entre eux, ou tous les objets soient connectés, puis chaque créateur d'objets va vouloir créer sa propre connexion. Tandis que là, c'est quelqu'un qui est revendeur de ces objets-là, qui souvent les connaît, pas tous, mais quand même bien, et qui va pouvoir répondre aux questions. Et je trouve que l'idée est assez brillante.
C'est vrai, c'est vrai. Bon, quelque chose d'intéressant, effectivement. À surveiller, on va faire les news suivantes un petit peu plus rapidement. Bing a 5 ans et je crois que c'est, que je dise pas de bêtises, PC World qui a fait ce titre absolument magnifique qui était « Aujourd'hui, ça fait 5 ans que vous n'utilisez pas Bing ». J'ai trouvé ça très bien. Même si, bon, de plus en plus, Bing est intégré dans certains services ou d'autres logiciels ou d'autres matériels. Donc, vous l'utilisez peut-être sans le savoir.
On pourrait dire ça, après 5 ans, vous allez être obligé d'utiliser.
Ouais, c'est ça, dans 5 ans. Feedly, ce service de lecture de flux RSS, a été victime d'une attaque DDoS assez violente. Et je voulais simplement en parler pendant 2 minutes, parce que moi, c'est un service que j'utilise beaucoup. Et la chose que certains ne savent pas, de certains utilisateurs ne savent pas, et qu'ils ignorent souvent, c'est qu'il y a beaucoup de gens de malfaiteurs qui créent des attaques DDoS, des attaques de déni de service très violentes et qui vont ensuite demander une rançon à des sociétés pour arrêter les attaques. C'était le cas avec Feedly, qui n'a pas cédé. On leur a demandé $30,000. Alors généralement, ce genre de rançons sont estimées pour être juste suffisamment élevées pour rapporter de l'argent, mais pas suffisamment élevées pour poser un vrai problème de trésorerie à la société, de manière à ce que ça soit plus simple pour la société de payer et de faire disparaître le problème plutôt que de se battre contre, parce que Feedly, par exemple, a eu 3 jours, enfin 3 phases, 3 attaques successives, 3 vagues successives, qui a vraiment supprimé, enfin bloqué le service pendant des jours. Et je trouve que c'était courageux de leur part de résister à cette attaque, bon, en quelque sorte terroriste finalement, parce que c'était une demande de rançon, une attaque mafieuse. Donc voilà, je voulais mentionner pour expliquer que parfois, quand des services sont victimes d'une attaque de déni de service, c'est souvent parce que c'est une attaque qui est liée à une action de malfaiteur et une demande de rançon. Et malheureusement, c'est le genre d'attaque, les attaques de déni de service, qui sont difficiles à arrêter et qui sont faciles à provoquer. Donc, c'est une situation compliquée dont sont victimes de plus en plus de services sur Internet.
Ouais. Evernote aussi, dans le même
tout
panier.
Tout à fait, oui. Tout à fait. BitTorrent a annoncé un service de chat sans serveur qui permettait de chatter de manière totalement anonyme. Dans le même domaine, il y a Serval. Merci. Ah bah, je vais peut-être retrouver le nom de la personne qui m'a envoyé ce message, qui est une patriote d'ailleurs, elle aussi, sur Facebook. Oui, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai une page Facebook, Note Patrick. C'était Laurence sur Facebook qui m'a envoyé ce message pour me parler de Serval, qui est un service assez intéressant qui permet de téléphoner sans utiliser de carte SIM et qui pourrait à terme permettre d'utiliser le réseau des antennes téléphoniques sans avoir de carte SIM, qui affole un petit peu les autorités, parce que ça permet là encore de communiquer sans aucune trace, de manière à peu près anonyme. Et enfin, dans ce petit laïus sur l'anonymisation des communications, je voulais vous parler de Tor. Vous connaissez hein, le service Tor. Un lien que j'ai vu sur le site de Corben, comme souvent pour ce genre de choses, qui détaille le service Tor, mais qui parle notamment d'une chose dont je voulais vous parler. C'était souvent, on pense que Tor, ce réseau totalement anonyme, est difficile à utiliser, difficile à mettre en place. Eh bien, en fait, il y a un truc dont j'avais déjà entendu parler, mais que j'avais jamais utilisé, qui s'appelle le Tor Browser Bundle, donc le pack de navigateurs de Tor, qui est en fait une version modifiée de Firefox, du navigateur très connu, dans lequel Tor est directement intégré. Donc il suffit de le télécharger, de le lancer, il se connecte au réseau Tor, et pof, voilà, vous pouvez naviguer de manière totalement anonyme. C'est beaucoup plus simple que je pensais. C'est vraiment, vraiment simplissime. Il n'y a même pas d'installation à faire. Vous le téléchargez et c'est terminé. Donc, si vous avez des besoins pour différentes raisons de navigation anonyme, que ça soit vous êtes, je ne sais pas, dans un pays où vous voulez faire des choses qui ne sont pas forcément acceptées par le gouvernement, ou simplement vous voulez de la discrétion sur Internet, pensez à ça. Tor Browser Bundle, c'est une solution qui pourra vous intéresser. Je fais une petite pause. Il y a des choses qui vous intéressent dans tous ces sujets d'anonymité. Vous êtes prêt à communiquer de manière anonyme?
Bon, moi, j'ai installé le Tor Bundle, mais j'ai installé parce que c'est rigolo. Mais franchement, à part ça, voilà. Il y a un service que j'utilise, si vous voulez vraiment aussi sur les anonymiser et sécuriser vos emails. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil à Bitmessage avec bitmessage.ch dans le cas présent, qui permet d'utiliser c'est des services d'email basés sur les crypto protocoles. Voilà, je vais pas trop loin dedans, c'est juste pour les gens qui sont vraiment à fond. Si vous êtes sur Tor, il faut vous mettre un compte Bitmessage, vous allez aimer.
D'accord, c'est noté. Un chatbot qui a passé le test de Turing. Le test de Turing, c'est ce fameux test qui dit que si on parle avec un ordinateur par chat et qu'on ne réussit pas à savoir que c'est un ordinateur, c'est à ce moment que l'intelligence artificielle sera vraiment arrivée. Alors, beaucoup de gens contestent ce test. Et en plus, beaucoup de gens ont fait passer cette information qui, en fait, était assez... Allez, on va dire bancal, puisque pour différentes raisons, c'était un chatbot et pas un vrai ordinateur. Et puis, le truc, c'était que je fais partie des personnes qui ont passé l'information, hein, entre parenthèses. Mais le chatbot disait « Je suis un enfant de 13 ans qui n'est pas dont l'anglais n'est pas la langue maternelle. » Donc forcément, vu qu'il parlait en anglais, il pouvait faire beaucoup de fautes et ça pouvait passer. Et en plus, franchement, quand on voit le chatbot, il est un petit peu pourri. Je comprends pas comment des gens ont pu penser que c'était effectivement un humain. Donc bref, c'était une fausse information. Si vous l'avez vu passer, le test de Turing n'a toujours pas été passé avec succès par un ordinateur.
Ouais, c'est assez facile, hein, comment il a réussi à être passé par un humain. C'est qu'ils ont utilisé une stratégie qui est psychologique, mais qui n'est pas informatique. C'est simplement que le chatbot posait beaucoup de questions. Il répondait un peu n'importe quoi, puis après il disait « Et toi, tu travailles où ?»
Ah
toi,
oui, mais
tu
c'est une technique de chatbot hyper classique. Ouais. Comment ne pas le voir venir, quoi?
C'est ça. Et donc, mon côté, c'est que c'était plutôt vraiment des gens naïfs, parce que dès qu'on pose des questions, effectivement, un petit peu à côté, il y a eu des exemples qui ont été montrés. Franchement, c'est impossible de ne pas voir venir. Mais bon.
Exactement, exactement. Intel s'occupe de notre futur sans câble avec de l'électricité sans fil. On parle pas de simplement de chargement sans fil, mais ça s'appelle Witricity, qui est du chargement sans fil avancé. Bon, ça pourrait être intéressant. Et puis, on sait qu'il y a aussi le WiDi, le WiDi Display, qui est donc de l'affichage sans fil. Intel a été condamné à 1 milliard d'euros d'amende pour abus de position dominante. Bah, c'est beaucoup, mais en même temps, c'était pour une affaire qui date d'il y a 10 ans. vous savez, c'est ce combat qu'il y a eu avec AMD au moment de, dans les années 2000, pour la question des processeurs. AMD était vraiment, vraiment performant sur les processeurs. Et Intel a usé de techniques pour le moins déloyales pour garder sa position de leader sur le marché, avec des comportements franchement malhonnêtes. Par exemple, il payait des constructeurs pour qu'ils n'utilisent pas, ou il menaçait des constructeurs pour qu'ils n'utilisent pas des pièces AMD. Le problème, c'est que, oui, 1 milliard, c'est beaucoup, mais c'est un truc d'il y a 10 ans qui n'est vraiment pas une somme suffisante pour contrer, d'une part, la domination stratégique d'Intel, et qui arrive tellement après que je suis pas sûr que ça leur bien sûr c'est une somme, hein, mais leur position était vraiment menacée. Est-ce que c'est suffisant pour qu'ils retiennent la leçon? Je sais pas.
Ça, c'est bien un peu, j'ai lu un article très intéressant et très bien documenté sur Samsung et aussi les techniques que Samsung utilise pour faut dire, copier certaines choses qui se font. Et c'est vrai qu'ils arrivent toujours en retard. On voit ce qui s'est passé avec Apple. Bien sûr, Samsung a copié Apple, mais au final, qui gagne, c'est quand même Samsung.
C'est ça. Même s'ils sont condamnés, ils ont intérêt à... Bon, bref. Et la dernière news dont je voulais vraiment, vraiment parler, il y en a toute une série d'autres, mais on va peut-être pas se lancer dans tous ces sujets, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. C'est la news du geek ultime. C'est Asus qui a dévoilé un... Alors, tenez-vous bien, hein, un ordinateur portable qui est aussi une tablette, qui est aussi un smartphone. C'est le 3 en 1, c'est-à-dire que vous pouvez décrocher l'écran de votre ordinateur portable et à l'intérieur, vous pouvez glisser votre smartphone et tout ça travaille ensemble. Franchement, je crois que là, c'est tellement spécifique que ça va un tout petit peu trop loin. Mais vous êtes vraiment un énorme geek qui a besoin d'un téléphone portable qui est aussi une tablette, qui est aussi un ordinateur... Non, oui, vous êtes client.
Écoute, tu vois qu'on est un petit peu sans voix là.
D'accord.
Non, mais moi je m'imaginais avec l'écran de mon portable, enfin de mon Mac comme ça à l'oreille comme ça en train d'essayer de parler, ça serait pas mal.
Non, mais tu vois, c'est pour ça que c'est bien que tu as un téléphone qui peut se décrocher. En fait, tu vois, c'est un téléphone qui se glisse dedans quoi.
Mais moi je crois beaucoup en ces pour avoir essayé le nouveau Lenovo, je crois beaucoup en ces tablettes qui décrochent, qui peuvent se plier et qui ont un keyboard où tu peux taper dessus, qui est facile, un clavier qui est facile à utiliser en même temps que tu plies et que tu utilises comme tablette. Et c'est vrai de l'avoir utilisé avec Windows 8 en plus, ça marchait très bien. Et je pense que une fois que ça attaquera le monde des entreprises, ça fonctionnera super bien.
Eh ben tu vois, si tu rajoutes un téléphone en plus là-dedans, le truc d'Asus. Bon, donc comme on le disait, il y a quelques petites autres choses dont on pourrait parler, comme Apple qui aura une enquête sur la manière dont ils évitent les taxes dans l'Union européenne avec l'Irlande, qui serait peut-être complice. Bien sûr, il nie la chose. HP qui invente l'ordinateur de demain, The Machine. C'était quelque chose d'intéressant. Le FBI qui met en vente ses bitcoins. Free qui va lancer bientôt, enfin d'ici la fin 2015, deux nouvelles Freebox. C'est un petit peu un effet d'annonce. Quoi d'autre? Bref, il y a encore beaucoup de choses dont on pourrait parler. On va s'arrêter là parce que ça fait déjà l'heure et demie traditionnelle dont on bénéficie dans le rendez-vous tech. Je pense qu'on a déjà eu une émission bien remplie. Donc on s'arrête là, comme je le disais. Avant de se quitter, je voudrais bien évidemment laisser la parole à nos deux camarades. Alors qu'est-ce que je dois dire? Nipcast, Niptech, nos amis suisses qui sont en train de construire un empire.
Oui, c'est vrai, mais avant de parler de l'empire Nipcast, et pendant qu'on parle, vous pouvez aller à nipcast.com, regarder un peu, parce qu'il y a beaucoup d'émissions. Moi, tu es devenu ma source officielle d'images IMGU, en fait.
ImageUR, ouais.
Ouais, ImageUR. Alors, comment tu fais? Est-ce que tu as un truc particulier où tu browse vraiment tout ça? Raconte-moi un petit peu les dessous de ta veille.
De ma veille d'images comiques?
Ouais.
Alors, pour ceux qui savent pas, c'est sur Twitter. Je poste effectivement régulièrement une sorte de meilleur des images plutôt cool. Et vous savez, des mimes, des images animées, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il y en a plein qui sont très très bonnes. Et avant, quand j'étais ignorant, je me demandais d'où venaient toutes ces images. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont les poster, qui vont pas indiquer la source et qui vont jamais vous dire de quoi il s'agit. Et du coup, vous allez penser que ce sont des sortes de magiciens d'Internet qui sont toujours au courant de tout ce qui se passe de manière un petit peu arcanique comme ça. Eh bien, pas du tout, c'est très très simple. Et moi, je suis très heureux de vous expliquer d'où vient tout ça. En fait, tout ça vient de Reddit. D'ailleurs, tu sais, tu as remarqué, Ben, que j'ai souvent le hashtag Reddit avec toutes ces images. Et c'est parce que ça vient de Reddit. Et j'utilise pour aller sur Reddit une application qui est disponible sur iPad et sur iPhone. J'imagine sur Android aussi. Je vais vérifier. Alors, Google Play Store, hop, c'est une app qui s'appelle Alien Blue. Comme Alien Bleu, et c'est une app qui permet d'avoir une super interface pour Reddit. Ah non, visiblement, elle n'est pas disponible sur Google Play, malheureusement. C'est dommage. Et donc, elle est effectivement super, super pratique. Moi, je l'adore. Reddit, qui était un petit peu une sorte de mystère de l'Internet pour moi, parce que l'interface web est tellement mauvaise que je n'y allais jamais, eh bien, est devenu quelque chose de vraiment une source d'information et d'amusement et d'intelligence. Il y a énormément de gens super intelligents et drôles sur Reddit. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est le cœur du net et c'est pas du tout des trolls ou des, bon, il y en a bien sûr, mais c'est beaucoup plus marrant et il y a des gens très éduqués, très prêts à aider. Bref, c'est sur Reddit, tout ça vient de Reddit. Pour naviguer sur Reddit, je vous conseille plutôt donc l'app Alien Blue sur iOS. Si vous avez un équivalent sur Android, n'hésitez pas à venir nous le dire dans les commentaires de l'émission. Mais c'est quelque chose que, franchement, aujourd'hui, c'est devenu l'une de mes sources de vers lesquels je vais quotidiennement, quoi, plus que Flipboard en fait. Donc voilà, et si vous n'avez pas le temps, parce que c'est vrai qu'il y a, bon, je poste un truc sur, je sais pas, 15, 20, 30, si vous n'avez pas le temps d'aller sur Reddit, vous pouvez me suivre sur Twitter, NotPatrick, c'est NotPatrick sur Twitter, et là vous avez ma sélection quotidienne qui est ou bi-quotidienne qui est là pour vous amuser également.
Je dois te dire merci parce que justement, moi je voulais toujours découvrir Reddit, mais je suis vraiment pas je déteste l'interface sur le desktop. Donc je cherchais une manière de le faire et je pense que je suis en train de télécharger Alien Blue. Donc je te dirai comment ça marche pour moi.
Ça marche, bah tu me tiendras au courant. Effectivement, moi je suis très heureux de partager justement. Je garde pas ces trucs pour moi. Je suis très heureux de partager ces informations. C'est pour ça que je fais le rendez-vous tech et c'est ma philosophie. Donc je ne garde pas mes sources secrètes. Ça n'est pas ma philosophie.
C'est beau. Bon, alors maintenant que je sais ça, on peut te raconter un petit peu Nipcast. Alors, il y a aussi des apps Nipcast. Hein, que vous pouvez chercher Nipcast sur iOS, sur Android ou même sur maintenant Windows 8. Vous trouvez, on est partout. On a aussi une Nipconf qui arrive le 24 octobre. Si vous êtes dans la région en Suisse, on vous donnera des infos, mais on va faire un truc collectif en commun. On va parler de tech, on va parler d'imprimantes 3D, de drones, de beacons, de crypto-monnaies. On va se faire plaisir, ça va être excellent. Et voilà, donc Nipcast, c'est cet énorme réseau de contenu où il y a pas que de la tech, mais il y a aussi du sport, de l'éducation, du développement, du développement personnel. Voilà, donc on se fait vraiment plaisir sur Nipcast en ce moment. Et je pense qu'une fois que vous trouvez la première partie de la plate, vous trouverez tout le reste, quoi.
Bah, peut-être pour les auditeurs du Rendez-vous Tech, le meilleur moyen de commencer, c'est Nipcast, NipTech, qui est votre émission dédiée à la tech quotidienne, enfin à la tech, ou plutôt à l'innovation, l'inspiration et
start-up.
Et voilà, start-up, innovation, inspiration, c'est ça.
Oui, et comme on dit toujours, c'est un très bon complément au Rendez-vous Tech. Vraiment, je pense qu'en écoutant les deux, alors il y a deux, trois trucs qui se retrouvent, mais globalement, c'est vrai qu'on a d'autres axes. T'expliques plus en détail, tu prends plus le temps de faire de bien expliquer les enjeux. Nous, on est un peu plus allé sur tous les petits trucs qui passent. Dans le crowdfunding et des choses comme ça qui sont peut-être moins certains, mais l'un dans l'autre, vraiment, c'est le combo que je recommande à tout le monde.
Parfait. Donc, c'est sur tout ça, c'est sur nipcast.com.
Absolument. Nipcast.com.
Super. Et ben, écoutez, merci à tous les deux. Pour ma part, comme je le disais, vous pouvez me retrouver sur NotPatrick sur Twitter. Pardon, Mike, tu voulais peut-être dire quelque chose aussi.
Non, j'étais content, j'ai écouté tout ça, je me disais génial, et puis tout va bien, je suis toujours très content d'être là, donc je vais pas te monopoliser le temps de parole.
Bon, je dis quand même que c'est Bécurdi et Syde, S-Y-D-E, sur Twitter pour mes deux compères. Et donc pour ma part, c'est NotPatrick, toujours sur Twitter, vous savez, c'est le réseau que je préfère, mais comme je le disais tout à l'heure, je suis aussi sur Facebook, vous pouvez aller sur facebook.com/NotPatrick et là vous avez accès aussi à toutes ces informations directement sur Facebook. C'est moins du minute par minute sur Facebook, c'est plus les gros trucs que je pousse de temps en temps, donc je vais pas vous envahir votre flux non plus. Et puis bien sûr, frenchspin.com www.tech-news.com, le site où sont hébergés où sont hébergées toutes les émissions que je produis, et notamment bien sûr le Rendez-vous Tech, sur lequel vous pouvez aller discuter de l'émission qu'on vient d'enregistrer, si on a dit des choses intéressantes ou stupides, ça nous arrive, et si vous avez des informations complémentaires à apporter notamment, n'hésitez pas à venir nous le dire, ça nous fera extrêmement plaisir. Messieurs, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Et vous, chers auditeurs, qui êtes des messieurs et des mesdames, je le sais parce que beaucoup d'entre vous me signalent votre présence, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode du Rendez-vous Tech avec plein d'informations intéressantes et notamment, sans doute, des news de Google I.O., je pense. Merci à tous et à dans 2 semaines. Ciao.
Salut.
Ciao.